Mais je sais pas si tous les artistes ont vocation aussi à être une superstar, tu vois.
Il s'appelle Pierre Demar. Bonjour Pierre Demar.
Bonjour. Ah, il va super bien Pierre.
Pierre Demar.
Salut, c'est Pierre Demar.
Pierre Demar. Retenez bien son nom, car vous n'êtes pas prêt de l'oublier. À seulement 21 ans, Pierre vient d'obtenir la révélation masculine aux Victoires de la musique et entame sa tournée à travers toute la France et la Belgique.
Docteur, docteur, docteur...
Il y avait une chance sur 100 que ça soit partagé, mais cette chance-là, si je passais à côté, je passais à côté de ma vie, tu vois.
Pour toi, aimer, c'est forcément aimer en mourir.
Moi, je vends de nouveau un fantasme, hein. Je vends quelque chose qui n'est pas réel.
Et tu penses pas que ça crée de la frustration?
Non, ça crée du rêve.
Qui se cache vraiment derrière ce chanteur à la voix d'ange? Comment oser se lancer et surtout réussir à se faire une place dans une industrie où la concurrence est rude? C'est ce que nous partage Pierre dans ce nouvel épisode d'In Power. Quand est-ce que tu te diras que t'as réussi?
Pendant 3 ans, j'étais une fraude, tu vois. En fait, j'avais aucune raison de me dire que ce que je faisais était bon ou non.
Et puis t'as quand même rebattu les cartes de l'industrie de la musique.
Mais c'est fou, hein. Les gens se lassent hyper vite. Ça fait peur. En tant qu'artiste, tu te dis, mais en fait, ils vont me kiffer 6 mois et puis après, ça sera fini. Je suis là, genre 30 secondes avant le direct, et je me dis, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je me torture, tu vois?
Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Pierre Demar. Écoute Pierre, bienvenue.
Merci Louise.
Bienvenue sur In Power, je suis ravie de te recevoir. J'ai pas envie de trop... Enfin, de quoi on va parler, les gens s'en doutent. J'ai envoyé quelques DM à ton frère.
Bien sûr.
Je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est vrai que pour une fois, j'ai accès à la famille, tu vois, de mon invité. Et j'ai bien envie de lui demander ce dont il n'a pas encore tellement parlé en interview.
Ouais.
Donc au final, on va parler quand même beaucoup de musique.
Très bien.
Parce que
cool.
De ce qu'il m'a dit, les médias, en fait, parfois te parlent de tout sauf de ça.
Bien sûr, ah, ça c'est récurrent, ça.
C'est quand même bien dommage. Ici, on est parlé de ce dont, enfin, on est ici pour parler de ce dont tu as envie. On va parler d'inspiration, de créativité, de mode. Mais avant tout ça, Pierre, est-ce que pour les personnes qui te connaissent pas encore, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites?
Très bien. Alors, je vais me présenter par des mots. Donc, je m'appelle Pierre Demar. On dit Demar d'ailleurs, parce qu'en France on dit souvent Demar, mais c'est Demar, M-A-E-R-E. Et j'ai 21 ans, je suis belge, je suis né à Bruxelles et je suis auteur, compositeur, interprète, ça c'est ce qui me définit le plus facilement, je pense, aujourd'hui, c'est le plus évident. Et donc je fais de ma vie, je fais de la musique ma vie. Et c'est trop bien, ça fait deux ans que c'est comme ça et que j'en vis. Dans ma musique et dans le perso que je suis, pas que. J'endosse un rôle ou quoi, mais mon personnage, c'est moi, il est très romantique. On pourra parler d'amour si tu veux.
Tes chansons parlent beaucoup d'amour. Donc en fait, si on parle de musique, on va parler d'amour.
On sera obligé. Très excessif aussi, un peu mais gentiment excessif. Hein. Voilà, j'aime bien vivre les choses passionnément, tu vois.
Mmh.
Avec beaucoup de passion. C'est comme ça que je me décrirais, sensible sans doute, bien sûr. Un peu frimeur, tu vois, un peu flexeur aussi, ça fait partie du personnage, mais c'est pas méchant. et voilà, c'est tout ça à la fois. Et puis,
c'est déjà pas mal.
Ensuite.
T'as toujours été ce garçon passionné, cet homme passionné?
Depuis toujours, j'ai l'impression de vivre à fond, quoi. À chaque fois, ne jamais me limiter en fait, à quoi que ce soit au regard d'un autre ou alors des craintes. J'aime bien outrepasser mes craintes.
Ok. C'est quoi la première fois où tu as ressenti le moment où tu es allé au-delà de tes peurs?
C'est une belle question. Je ne saurais pas te dire la première fois, mais la plus évidente, c'était mon premier amour. C'est très tard qu'il est arrivé, j'avais 18 ans, tu vois.
Bienvenue au club.
Moi,
c'était 20.
20, c'est très bien. On est plus mature, comme ça, on gère ça mieux.
N'est-ce pas? Non, mais franchement, moi, je suis ravi. J'ai évité plein de merde.
Mais c'est ça. Je pense qu'à 15, 14, 13 ans, on n'est encore pas forcément mature et on fait n'importe quoi. Et donc, je suis heureux d'avoir connu ça plus tard, parce que j'aurais pas su gérer ça intelligemment plus tôt. Bref. Et donc, j'avais 18 ans en terminale, donc. Et je tombe amoureux pour la première fois, c'était un garçon, et avant ça je m'étais toujours interdit l'amour, parce que je savais que j'aimais bien les garçons, mais je voulais pas en parler, pas que j'en ai souffert ou quoi que ce soit, on m'a jamais discriminé par rapport à ça, mais je me suis protégé en fait, et je me suis dit tiens j'en fais pas un sujet de conversation jusqu'à ce qu'au jour où je suis à l'aise avec ça et avec tout le monde qui est autour de moi, tu vois. Et donc bref, à 18 ans, je me rends compte que je tombe amoureux et que autant une orientation sexuelle, ça peut se cacher encore, mais l'amour, c'est trop fort, tu vois. Et donc, la première fois que je suis sorti un petit peu de ma zone de confort, entre guillemets, ça a été toute cette période-là, en fait. Il y a eu plein de pas qui ont été franchis, qui étaient des pas énormes pour moi, qui ont été franchis à ce moment-là. D'abord déclarer cet amour à la personne droit dans les yeux, en vrai, de vrai. Bon, ça n'a pas été rendu, mais c'est pas très grave, parce qu'en réalité... même si la relation n'a pas existé, ça a tellement changé ma vie sur le moment et dans la façon dont je me percevais moi-même. Et j'ai gagné cette liberté de pouvoir être qui j'étais, vraiment. Voilà, je suis sorti de ma zone de confort quand je l'ai dit à mes parents, bien sûr. Je tremblais, j'étais quand j'ai dit à mon père, on était au restaurant à deux, en Bretagne. Je pense que ça a duré... Je lui annonçais ça, mais je lui ai raconté une histoire, toute mon histoire d'amour, jusqu'à ce que je dise que c'était un garçon, si tu veux. Ça a duré une heure et j'étais tremblant. Et ça, c'était la première fois vraiment que... Enfin, non, je suis sorti souvent de ma zone de confort. Quand je fais un plongeon à la piscine, par exemple, à l'école, parce que c'est obligatoire et je déteste ça.
Ouais.
Mais,
Ah, j'ai pas eu les plongeons, moi.
C'est vrai?
Ouais.
Bah, t'as beaucoup
j'ai
de
eu la piscine, mais pas les plongeons.
Ah, ouais, c'était ma phobie. Je faisais des plats, ouais. Mais royaux, quoi.
Et quand tu dis cet amour n'a pas été rendu, est-ce que c'était une personne qui était aussi homosexuelle? Est-ce que c'était une personne qui... Enfin, tu vois, ce que je me dis, ça, c'est quand même une particularité que les homosexuels doivent un peu affronter.
Bien sûr.
Ouais. C'est genre le rejet parce qu'en fait, ils aiment l'autre sexe, tu vois.
Absolument.
Ce qui est un peu dur au-delà du rejet.
Bah, dans ce cas, je pense qu'il était hétéro, ouais, en effet. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit, donc je le crois tout à fait.
Et ça t'a pas blessé plus que ça? C'est marrant, t'en parles.
Si. Non, ouais. Bien sûr. En fait, tu sais, avec le temps, tout semble plus fade. Pas fade, mais un peu plus joli, quoi.
Ouais.
Mais c'est comme quand je parle de l'école, j'ai l'impression que c'était tranquille alors que j'ai détesté ça. Mais lui, donc, comment expliquer ça? J'étais obsessionnel, en fait, tu vois, j'étais... ça m'est arrivé que deux fois dans ma vie, ça, mais c'est quand il y a une sorte d'idéal qui se présente à moi et un truc que j'ai fantasmé toute ma vie, pas sexuellement du tout, hein, mais vraiment une aura, quoi. Et je me dis, ah, c'est trop beau pour être vrai, alors je plonge à fond dedans parce que moi j'ai pas peur des pièges.
Ouais.
Et donc ça m'a blessé, bien sûr. Pendant 6 mois, j'étais à fond, et puis le jour où je lui ai dit, bon, c'était pas possible, mais j'avais déjà un peu appréhendé le truc quand même parce que je suis pas complètement con non plus. Et donc voilà, mais je l'ai mal vécu, bien sûr. Il y a eu 2-3 mois de... En fait, il y a une sorte de vide qui se crée. On se sent... on trouve plus de but, de saveur, de but, quoi, dans la vie, quand on vit les choses vraiment avec beaucoup de passion. Et c'est comme ça que je vis l'amour. C'est une anecdote que je peux encore raconter. Elle est très drôle parce qu'elle est drôle de honte, mais extraordinaire. C'est que, il y a pas si longtemps, j'ai été pris d'amour. Bon, amour, c'est un grand mot, hein, pour le coup, mais je suis sous le charme. Et j'ai parlé pendant 3 jours, donc c'était assez court, avec un faux compte Instagram. Donc,
ah oui, ça c'est la ouf, tu vois. Réseaux sociaux et l'amour 2.0.
Incroyable. Et en fait, je me suis senti bête, mais archi bête, plus qu'une grand-mère qui se retrouve à se faire avoir par une arnaque par mail, tu vois. Mais c'était tellement crédible. Et c'était. C'est une sorte d'usurpation d'identité, tu vois, mais bien faite. Et la personne en face parlait avec tellement de. J'ai l'air bête là comme ça, mais c'était vraiment pour le coup. Parce que généralement, moi, il y a plein de faux comptes Pierre de Mar qui attrapent des fans et je me dis, mais les gars, c'est pas possible, ça semble tellement évident, tu vois, parce que c'est bourré de fautes d'orthographe, je vous vois pas les gens, enfin, j'écris à personne comme ça. Mais là, il y avait toute une histoire, tout un scénario autour, c'était bien fait. Et donc, et pour la première fois depuis 3-4 ans, depuis la terminale, je ressentais une nouvelle fois cette sorte de passion. Et j'étais, alors quand je suis amoureux, je mange plus, c'est marrant, il y a un effet sur mon corps, quoi, gigantesque. Et puis, au final, je me suis rendu compte de l'arnaque au bout de 2-3 jours.
Comment tu t'en es rendu compte? Parce que c'est vrai que, enfin, moi, pour l'avoir vécu un peu, mais alors c'était une vraie personne derrière, j'ai eu de la chance, mais enfin, je veux dire, ça pourrait arriver à n'importe qui, et sûrement des personnes qui nous écoutent, ça leur est arrivé sur des applications de rencontres.
Ouais,
en fait, que ce soit Instagram
Tinder,
ou des applications
ça,
de rencontres,
grave.
En fait, il suffit qu'en effet, tu rôdes bien ton
photos,
truc.
N'importe, ouais,
voilà,
exactement.
Que tu prennes. Moi, ça m'est arrivé, tu sais quoi, quand je devais louer un appart. Et en gros, j'ai fait ma 3e année à Berkeley aux États-Unis.
Ouais.
Et du coup, je vais sur Craigslist, qui est un peu le bon coin américain. Et je regarde pas mal d'appartements et j'en vois un qui est pas très loin du campus, qui a un prix raisonnable. Enfin, tu vois, c'était quand même $900, tu
ouais,
vois, les 20 mètres carrés. Mais aux États-Unis,
ouais,
c'est pas trop cher,
c'est
en tout cas en Californie. Et donc, j'entre en contact avec la personne. Il y avait même sa carte, c'est un mec qui était infirmier. Enfin, tu vois, il y avait des preuves.
Ouais.
Hyper crédible. Et j'envoie à mon père qui devait, bah, évidemment, à l'époque, j'avais 19-20 ans, j'avais pas les fonds pour avancer le premier mois de loyer. Et mon père, qui est complètement parano, mais comme quoi, parfois, ça paye, il me dit, non, je sens l'arnaque. Mais genre, je pense qu'il m'a dit ça sur 3 dossiers, tu vois.
Okay, ouais.
Je lui dis, non mais papa, là, t'es relou, c'est le 3e. Enfin, je veux dire, il est bien placé, il est dans nos prix. Enfin, genre, juste, paye le mois de loyer. Tu vois, genre, faut qu'on avance.
Ouais,
tu vois.
Bien sûr. Ouais.
Et en fait, il me dit pas, mais il envoie à ma tante qui est américaine, il envoie le profil du mec, il lui dit, voilà, Louise a trouvé cet appart, t'en penses quoi? Je sens pas trop. Ma tante contacte le nom du mec sur Facebook, elle cherche son nom sur Facebook, elle lui contacte, elle lui dit, voilà, ma nièce cherche à avoir votre appartement à Berkeley, comment est-ce qu'on peut procéder? Voilà, on voulait juste s'assurer que l'annonce soit fiable et tout. Mmh. Et le mec lui répond, mais vraiment, quand je te dis que comme mon père voulait pas faire le virement, j'avais convaincu ma mère de le faire, elle allait payer le lendemain.
Wow.
Et le mec lui répond, n'envoyez rien, ce n'est pas moi. On a usurpé mon identité.
C'est ouf, hein, tu vois.
Et je trouve ça désolant parce qu'en fait, du coup, ouais, on peut plus, enfin, on peut plus faire confiance,
ah
tu
non,
vois.
Pas du tout, hein, bien sûr.
Et donc, sur Tinder, une fois, quand j'avais 17-18 ans, j'avais une histoire avec un mec, on a parlé 2 mois. Parce qu'en fait, comme tu dis, et c'est là où je rebondis sur un sujet que tu as abordé, mais je voulais te demander si, est-ce que, je suis un peu comme toi, est-ce que le rêve vaut le coup? Ensuite c'est pour qu'il soit
qu'il y ait une désillusion
pour,
une
qu'il
chute,
pour qu'on déchante tu vois
ouais.
Parce que forcément en voyant pas quelqu'un 2 mois dans mon cas toi c'était 2 jours mais moi c'était 2 mois en lui parlant presque
encore.
Tous les jours
c'est horrible
forcément quand tu la rencontres enfin dans mon cas il y a une forme de déception
bien
parce
sûr.
Que je m'étais fait une image de lui qu'il ne pouvait pas être vu qu'elle était fabriquée de toutes pièces
en fait quoi le gars il existe c'est lui mais il était décevant dans la vraie vie c'était quoi l'histoire
en fait ouais il était décevant le pauvre il était qui il était tu vois mais moi j'avais eu le temps pendant 2 mois
de rêver enfin,
d'ailleurs
à
c'était
mort,
un musicien et... aussi mais tu vois du coup voilà il parlait de musique il m'avait envoyé une chanson enfin tu vois j'avais eu le temps vraiment de le mettre sur un piédestal donc quand je l'ai vu.
Mais la déception,
pas,
elle est juste
moins...
physique ou elle a
non,
aussi...
Non, c'était dans la personnalité, tu vois, okay. Il était plus timide que ce que j'imaginais. Mais tu vois, honnêtement, avec le recul, je me dis, c'est juste que je crois que moi, j'avais tellement peur de l'amour à l'époque que, dans tous les cas, je m'étais créé un idéal qui ne pouvait pas être réel et qui ne pouvait pas être confronté, quoi. Donc, mais donc toi, déjà, comment tu te rends compte de cette usurpation?
Oui.
Et après, tu me diras pour le premier, si jamais, après coup, tu t'es dit... En fait, c'est fini, je me fais plus de films. Parce que d'un autre côté, c'est cool les films, tu vois. Donc
j'adore les films. Moi, j'adore. Ouais. Je pense que je continuerai de m'en faire jusqu'à la fin de mes jours. Parce que ça crée des instants de rêve. Après, il y a une désillusion, mais c'est toujours fixé dans le temps, au final. On sait que
mais
la
désillusion
la
est inférieure au plaisir que te procure le rêve.
Je pense
sinon, tu ne le continuerais pas.
Peut-être pas, t'as raison. C'est une question d'équilibre. Je pense qu'elle est très, très forte, hein, la désillusion. Elle peut, vraiment, tu tombes de 153 étages et c'est dur, mais. Ouais, le moment qui précède et le moment de rêverie et d'idéalisation, de projection, il est tellement beau que je pense qu'on se permet à chaque fois de rêver à nouveau. Et il y a ce truc trop beau pour être vrai. Et j'aime pas cette phrase, comme l'homme pâle le dit. Hein. Mais en même temps, elle est un peu réelle, quoi. En tout cas, dans le cas de chacune de mes aventures, quand c'était trop beau, quand c'était trop bien, ça n'avait pas lieu d'exister.
Mmh.
Et donc, comment je m'en suis rendu compte, en fait, je suis un grand stalker, tu sais, et on est tous des grands stalkers, je pense. on ne le dit pas, mais...
J'aime bien les gens qui mettent dans leur bio « Welcome stalker ».
Ouais, « Welcome stalker », c'est vrai, bien sûr, on est... Et donc j'ai fait mon enquête et la première fois j'ai mené l'enquête 2 fois, une fois avant de lui parler parce qu'en fait j'y croyais pas trop à l'histoire. C'était un joueur de foot, moi, je dirais pas qui évidemment, mais semi-pro quoi, il y a un truc. Et moi il y a un fantasme autour de ça. Je me dis mais ça change de ce que je connais en fait. Bon, un joueur de foot, est-ce que c'est intéressant? Ça peut l'être ou non, tu vois. Mais ça change. Et à la base c'est pas du tout c'est pas une figure qui m'attire mais je trouvais ça marrant quoi et parce que quand je sors en boîte tout ça il y a un certain profil qui revient souvent et aujourd'hui je me rends compte que c'est peut-être pas ça dont j'ai envie pour moi et donc voilà ça me semble incroyable et j'y crois pas d'abord et donc je dis bah j'y crois pas trop ça et puis je dis écris-moi depuis ton compte public alors parce qu'il écrivait avec un compte privé. Et puis il fait non mais c'est chaud parce que tu sais dans mon milieu c'est caché, c'est pas possible. Je sais pas, il y a une de ses copines qui m'envoie un message avec des screenshots où elle parle avec lui sur son compte public en mode je force le destin parce que sinon il osera jamais, voilà. Et en gros tout était hyper bien monté. Et mais j'y crois toujours pas à ce moment-là parce que vraiment en plus plus le temps passe et plus je vais être une figure publique et plus j'ai pas envie de me faire avoir tu vois et de m'afficher donc je m'affiche moi-même maintenant comme ça c'est au moins
je
contrôle
peut
le
faire
truc
à ta place tu vois.
et en fait je dis non j'y crois toujours pas et puis à un moment donné il a un frère qui joue au foot aussi qui a un compte public aussi et donc je vais voir c'est pas la Mbappé hein. je vais voir le profil du frère ses abonnements et je remarque une chose c'est qu'il suivait en tout cas je pensais qu'il suivait le compte privé avec lequel je parle donc je me dis ça y est c'est bon tu vois et en fait ce que j'avais pas vu et je me rends compte 3 jours plus tard en revérifiant l'info c'est qu'il y avait une sorte d'underscore en plus que j'avais pas capté et moi j'étais prêt à rêver tu vois et quand t'es prêt à rêver tu fais pas attention à ce genre de choses parce que tu te lances direct et donc un peu ouf comme histoire et je me dis mais quel était l'intérêt parce qu'on a parlé bon pendant 2-3 jours c'est pas très grave tu vois j'ai pas eu le temps d'être fou. Enfin si, mais pas aujourd'hui j'en suis pas blessé.
T'as pas
du
été
tout,
trop
tu vois,
blessé,
je suis,
ouais.
Non, ça durait 2 jours la désillusion, donc c'était assez équilibré. Et en fait, je me dis pourquoi, tu vois, parce qu'on en a parlé, et c'est très très crédible dans le sens où si le mec avait un match de foot, il me disait voilà, je vais au match de foot, je reviens ceci, cela, il me parlait de sa carrière, de trucs hyper hyper privés, machin, qui s'avérait vrai souvent, je pense, quand j'ai vérifié ensuite. Il m'envoie des photos, mais qui étaient des photos tirées d'internet, sauf que moi je vérifiais plus parce que j'étais hyper confiant. Et je me demande quel était l'intérêt, tu vois,
mais
genre pourquoi.
Ouf.
Est-ce que tu voulais des news? Parce que j'en vois pas de news, navré.
Quand tu dis news, c'est des dick pics?
Ouais, enfin, ouais, même moi je suis pas comme ça, mais il y a même des photos genre je suis pas sensuel, tu vois, n'importe quoi, truc un peu. Il aurait pu vouloir ça, mais il a pas demandé ça. Après, ça faisait 2-3 jours, donc c'était un peu court pour déjà s'y mettre. Ou alors, j'en sais rien, que je sois lourd dans. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Moi j'étais très bien parce que je sais que sur Insta, faut être formel. Donc je suis resté, j'ai rien à me reprocher. Mais c'est chelou, tu vois.
T'as pas cherché à savoir après, tu lui as pas dit, mec, genre, c'est quoi ton. Genre, pourquoi? Pourquoi
bien
tu
sûr.
Fais ça?
Bien sûr. D'abord, je l'ai bloqué, et puis quand je m'en suis rendu compte, et puis le lendemain, j'étais trop curieux. Donc, j'ai débloqué, et je lui ai envoyé un message en mode, bon, je sais que t'es pas un tel, mais pourquoi t'as fait ça? Tu vois, alors quel est l'intérêt? Est-ce que tu voulais des news? Et puis, il a joué le jeu jusqu'au bout, genre, il a rempli son rôle, il m'a dit, non, mais je te jure, je cherche pas à te tenir, c'est moi, attends, j'ai un match. J'étais là, arrête, je sais que c'est pas toi. Et donc j'ai fini par le bloquer parce que ça n'allait nulle part, genre il restait dans son truc. Et je me suis dit, putain, dégoûté. Mais c'était court et pas très grave, mais c'est marrant comme histoire. Et ça m'a montré à quel point il faut que je me méfie, mais c'est pas que moi, tout le monde, quoi. Mais on le dit souvent, mais on n'est pas forcément confronté à ça. Mais vraiment, Internet, en tout cas pour l'amour, même pour les sortes de rêveries, enfin c'est dangereux, quoi.
C'est dangereux, c'est vrai que je trouve ça triste, en fait, parce que, bah oui, quand tu deviens une figure publique, les gens peuvent facilement essayer de se jouer de toi.
Grave, bien sûr.
Et après, c'est un coup à devenir ouais, complètement hyper parano, méfiant,
ouais,
et je te le souhaite pas, tu vois.
Non, j'ai pas envie non plus.
mais mon interprétation, c'est que c'est des personnes qui rêvent d'exister,
sans doute,
qui
ouais.
N'y arrivent pas et qui du coup se disent que c'est un moyen pour eux
bien sûr, derrière un pseudo, derrière
voilà,
un truc
ouais, de mettre du piment dans leur vie, de se dire qu'ils te parlent à toi directement et ça les valorise.
Sans
c'est
doute.
Quand même triste, quoi.
C'est une théorie que j'ai développée aussi. Je ne sais pas exactement, mais c'est ouf. Hein. Mmh. Bah, c'est plus triste pour lui que pour moi en réalité, parce que moi, ça a duré 2 jours. Lui, dans sa tête, c'est pour toujours que c'est chelou, tu vois.
Donc, c'est vrai.
Mais bref, drôle d'histoire. Et donc, quand j'ai eu cette première déception amoureuse il y a 3 à 4 ans, je ne me suis jamais interdit de re-rêver. Mais j'étais un peu dégoûté de l'amour. Là, je l'ai été à nouveau. Mais je pense que c'est comme ça. Mais je n'ai pas encore connu un truc où vraiment c'était à la fois passionnel et à la fois réel. Parce que j'ai connu des couples qui étaient très beaux, des beaux moments, et des relations qui étaient belles. Mais qui n'était pas obsessionnel ou passionnel. Après, est-ce que c'est ça qu'il faut chercher réellement? Je sais pas, tu vois. Est-ce que ça va me rendre heureux, la passion amoureuse? Pas sûr, hein. Ça dure 2 mois et puis c'est fini. Je n'ai pas encore connu ça de façon réciproque.
J'ai une théorie là-dessus, j'en parlais un peu dans le podcast.
Ah,
je pense qu'il sera déjà sorti à l'heure où vous écouterez ce podcast, avec Rosa Bernstein. Je ne sais pas si c'est une comédienne humoriste qui parle beaucoup de relations amoureuses, de sexualité, etc. Et je lui disais... Enfin, tu vois, j'ai 25 ans, donc j'ai pas non plus encore un palmarès impressionnant. Mais perso, je pense que on nous vend la passion, alors qu'en vrai, c'est pas l'amour, tu vois.
Non, tout à
tu
fait.
Tu vois, je pense que les films, les livres nous donnent vachement envie de savoir
grave,
ce que c'est.
Bien sûr.
Tu vois, on se l'idéalise, on se le fantasme. Mais en fait, pour moi, c'est une vue de l'esprit presque. Et j'imagine. Tu vois, il n'y a pas de vérité générale, donc j'imagine que pour certains, ça peut
exister,
s'allier
ouais.
avec l'amour durable et franchement, waouh!
Quelle chance!
Mais j'ai appris à ne plus l'attendre.
Mais c'est très bien, je pense que c'est comme ça qu'il a plus de chances d'exister aussi. Et tout.
Ouais.
Il faut pas constamment y penser, certainement pas, ça fait juste du mal. Mais c'est vrai que partout, t'as raison, hein, dans les fictions, même dans les chansons, tu vois, quand j'ai écrit Un jour je marierai un ange, c'est exactement ça, c'est l'idéalisation, c'est la quête d'un idéal, tu vois, qui n'existe pas forcément. Mais
donc t'en as conscience au moins,
quoi. Ah ouais, j'en ai grave. Et moi, je véhicule ce truc, je fais une propagande encore tout à fait malsaine de l'idéal. Mais j'en ai conscience, bien sûr, c'est beaucoup plus beau dans les films, dans les livres, dans les romans, dans les chansons, évidemment. Mais, ouais.
Écoute, tu me fais une parfaite transition avec Un jour je marierai un ange, qui, si je me trompe pas, est la chanson qui t'a vraiment fait exploser auprès du grand public.
Tout à fait.
Tu peux nous situer un peu déjà. Bon, bah, ce que tu faisais avant ça. Moi, je me demande, tu vois, t'es un jeune homme en Belgique à 18 ans. Est-ce que tu te dis déjà là que, en fait, t'as pas envie de continuer particulièrement des études et que t'as envie de te consacrer à l'art? Est-ce que tu continues, tu fais ça en parallèle? Enfin, comment ça se passe et qu'est-ce qui t'amène ensuite après à te lancer un peu sur les réseaux?
À 18 ans, j'étais en photographie, en fait, aux Beaux-Arts d'Anvers, parce que j'ai deux passions, enfin deux, trois passions qui sont la musique d'abord, centrale, la photographie et la mode aussi, j'aime bien. J'y connais pas grand-chose à la mode, mais ça m'attire, ça me fascine, quoi. Et j'aime bien les belles silhouettes, j'aime bien regarder des défilés, en compagnie. Et donc, d'abord la musique quand j'ai 10 ans, tu vois, très tôt, et puis à 15 ans, je me désintéresse de la musique pour faire de la photographie. Je prends des photos de ma sœur, je prends des photos de mes copines à moi, et puis un jour j'ai envie de photographier des mannequins. Donc je me mets à photographier des mannequins et c'est comme ça que la mode rentre un peu dans ma vie. Et du coup, à 18 ans, je ne savais pas quoi faire. Je termine j'ai mon bac général. J'étais en latin et anglais, très littéraire. Je suis très peu scientifique ni mathématique. Et je me dis, bah, très bien, je fais de la photo, ça m'amuse. Je n'étais pas encore revenu forcément à la musique. Faisons de la photographie. À Anvers, donc, qui est une belle école parce que c'est hyper réputé pour la mode. Anvers, ils ont fait Dries Van Noten, Margiela et compagnie sont allés là-bas.
Ok.
Et donc, dans ma tête, dans mon idéal, de nouveau, j'y vais pour rencontrer des créateurs, faire des photos avec eux, shooter leurs créations et tout ça. Et donc, je fais un an là, mais je ne suis pas du tout convaincu de la formation sur place parce qu'au Beaux-Arts, je ne fais pas de généralité, mais aux écoles d'art en général, en photographie en tout cas, et je pense que c'est la même chose dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, c'est hyper contemporain, c'est un peu branlette en fait. Il y a un truc quand même où je trouve qu'on raconte plein de choses, mais on.
Ça pas les mains dedans.
Ouais, mais pas trop les mains dedans en fait. Et quand je voyais les photos de mes collègues, je trouvais ça très moche. pas toujours, pas toutes, mais je trouvais pas ça génial. Le niveau photographique, en fait, c'était plus vraiment raconter, se la raconter. Et c'était plus une histoire de posture que de fond. Et je les voyais tous avec leur roulet, leurs cheveux rouges, il n'y a pas de souci, mais ça ne fait pas de vous des Van Gogh, tu vois. Et en fait, il y avait vraiment une question de c'est plus de quoi j'ai l'air que ce que je fais. Et donc, je n'aimais pas ça. Et la formation, elle n'était pas mauvaise en soi. Mais moi, tu sais, j'aime bien ce qui est beau, j'aime même bien quand c'est kitsch, les excès de beauté, ça me parle en fait. Et là-bas, au Beaux-Arts, c'est une approche contemporaine, quoi. C'est plus l'esthétisme en fait. On court plus derrière la beauté, on court derrière un message, une histoire à délivrer. Moi, j'aime bien associer les deux, ou alors juste la beauté. Tu vois, la photo de mode, c'est parfois juste la beauté, mais c'est quand c'est bien fait, quand les lumières sont merveilleuses et la pose est gracieuse, c'est plaisant en fait. Donc, bref, Anvers me plaît pas tant que ça. Et à ce moment-là, dans ma vie, comme je m'ennuie un peu, je me remets en parallèle à la musique et j'écris pour la première fois une chanson en français. Parce qu'avant ça, j'écrivais toujours en anglais ou alors en yaourt quand j'étais plus jeune, tu vois.
Pourquoi ? Parce qu'il y a une distance avec l'anglais qui te rassurait ?
Ouais, exactement. C'est une question de pudeur et aussi une question de... Tu sais, quand j'avais 13 ans, je trouvais le français, c'était très ringard en chanson.
C'est sûr, hein. Mais de toute façon, quand t'essaies de traduire 2000, tu vois, Candy Shop de 50 Cent, bon, de toute façon, je dis ça, c'est pas le plus grand compositeur de tous les temps.
Mais c'est pas possible.
C'est pas possible.
Non, évidemment. En fait, l'anglais permet une liberté et une sorte de coolitude à l'anglais, en musique en tout cas. Et en français, c'était pas comme ça à l'époque. Et moi, j'avais cette image du chanteur de variété avec sa guitare sèche et une sorte de chapeau horrible. Et je pouvais pas, quoi. Et puis Stromae est arrivé. Et j'ai trouvé qu'il a modernisé, il a quand même donné un souffle assez nouveau à la langue française chantée. Et donc, il y a la combinaison de ça, en fait. Moi, j'ai été de moins en moins pudique, en fait. Et j'ai été prêt à en donner.
Vulnérable
à être vu, entendu dans ma langue à moi, à ce que mes parents comprennent ce que je dis aussi, tu vois. Et j'avais une meilleure image de la langue française en chanson. Et donc, je me suis mis à chanter en français. Ça, c'est en 2020, tu vois.
Donc premier hyper
confinement.
Récent.
C'est tout récent. C'est tout récent. Ça fait deux ans, trois ans maintenant. Ça va très vite. Mais donc, premier confinement, tu vois, Covid, mars 2020. Et j'écris une chanson en français. Je la publie. Elle s'appelle Potins Absurdes. Et elle parle un petit peu de ce monde des potins, de l'école, du collège et tout le monde qui a toujours... En fait, ça parle de la légèreté parfois avec laquelle on traite certains sujets très graves, tu vois. Et donc, je dis, et puis on se demande si un tel n'a pas le sida, machin. Et puis, dis-moi Pierre, aimes-tu les garçons ? C'est comme ça que j'ouvre la chanson. Et bref, j'écris ce morceau, tu vois. Mais donc hyper frontal comme écriture et tout ça à ce moment-là. Et je me délivre un peu pour la première fois. Bref, le morceau sort sur les plateformes, pour la première fois aussi, sur Spotify et compagnie. Ça coûte 10 balles par an, n'importe qui peut le faire, ça. Et je suis repéré par un certain Théo Otuki qui bosse chez 5-7, chez Vagram, qui est une maison de disques parisienne, qui a Orelsan, Philippe Catherine et compagnie, donc des beaux noms qui me plaisent. Et il m'écrit sur Instagram parce qu'il est tombé tout à fait par hasard sur mon morceau sur Spotify à travers des playlists algorithmiques. Et il me dit que ça lui a plu. Il y avait déjà l'image parce que j'accordais beaucoup de soin à l'image. Donc tu vois, j'avais ce bagage un peu de l'image sur le dos, de la mode. Je suis dans une sorte de chemise Valentino fripée en satin, dans une baignoire, et un truc un peu kitsch, mais cool.
Mais donc ça, je t'arrête juste là-dessus.
Ouais,
tu le fais tout seul la réal, l'écriture.
La musique, l'écriture, tout seul. Et j'ai un grand frère, donc on en parlera, mais Xavier, qui m'aide sur le mix à ce moment-là. Il faisait pas de prod avec moi à ce moment-là. Là, il a rejoint un peu le wagon, mais avant ça, je faisais ma prod tout seul, et lui mixait, il m'enregistrait, on finissait le produit à deux, tu vois. Mais on n'avait pas de budget pour faire quoi que ce soit.
Ouais, c'est sûr.
Moi, j'ai lu mille fois sur Twitter que j'étais un enfant enfant d'eux, un fils d'eux, et que c'était grâce à mes parents fortunés. On en reparlera. Tout est faux, bien sûr. Ils sont
c'est
pas
fou
dans la musique,
à quel point les gens veulent absolument. Ah bah y a une parfois. Mythe, mais tu sais pourquoi? Parce que c'est con à dire, mais comme t'as une tête de bourgeois.
Mais bien sûr, j'ai une tête de
non,
bourgeois.
Non, mais je dis ça parce que moi aussi, on me le reproche. Aussi,
ouais, c'est vrai.
Et je me dis, non, mais tu vois, c'est con. Enfin, tu vois, bien sûr que les personnes qui viennent d'un milieu social.
Voilà,
privilégiés ont plus de chances ou que les personnes qui viennent d'un milieu social défavorisé sont beaucoup plus méritants. Mais est-ce que c'est une raison pour taper sur les personnes Enfin, tu vois, toi, je veux dire, que t'aies eu des parents fortunés ou pas, t'as créé ta chanson tout seul,
absolument,
t'as filmé tout seul, tu l'as posté tout seul et ça,
bien sûr.
Ça demande pas.
Ils sont même pas si fortunés que ça. Ça c'est ce qui est drôle, en fait, c'est que je lis des trucs n'importe quoi, tu vois. Et c'est, t'as les gens, je sais pas, c'est ça fascine les gens en fait, ce truc de créer des mythes un peu et parfois une envie de démériter. Je sais pas comment
oui. D'expliquer que t'as réussi par autre chose que par ton talent.
Par du talent du travail, alors que franchement, c'est pas que ça, mais c'est essentiellement ça, tu vois. Et pour le coup, oui, j'écris ma musique moi-même et mes parents, ils connaissent personne dans la musique ni dans l'art, et ils ont pas de connaissances dans le milieu de la culture du tout. Mais donc, bref, pour revenir donc au produit Potin Absurde, on le fait tout seul avec mon frère. Il sort, Théo me repère et aime bien ce que je fais, je lui envoie 2-3 maquettes et on signe ensemble pour plusieurs albums chez Vagram, donc assez ouf, tu vois, sur la fois
un
de
single, quoi.
Ouais, sur la fois vraiment d'un morceau et de 2 maquettes, et surtout qu'aujourd'hui, tu sais, les maisons de disques, elles signent plus des communautés que des artistes, en fait. Elles signent beaucoup de mecs qui ont 100 000 abonnés sur TikTok et c'est rassurant, mais ça, je pense que c'est une immense erreur, parce que ça manque cruellement de fond et que sur le long terme ça va pas marcher des masses, mais bon, je laisse les gens faire leur métier, tu vois, mais voilà.
Ouais.
Et moi j'avais personne, j'avais 1000 abonnés sur Instagram qui étaient mes amis et j'avais pas TikTok ni quoi que ce soit, et juste la musique lui a plu, tu vois, et donc ça c'est très bien, je pense que c'est sain comme signature.
Je pense que ta musique lui a plu, ton écriture,
le personnage,
ton univers, tu
proposais
autre chose que juste une belle voix, parce que même signer juste sur une belle voix, je pense que c'est pas suffisant.
Non, tout à fait, t'as raison, mais on s'est eu au téléphone, il a découvert un peu le personnage, mes envies, je lui ai envoyé un moodboard de 20 pages avec tout ce que j'avais en tête pour l'imagerie, tu vois, j'étais hyper déter évidemment, et à ce moment-là, moi je suis dans mes études qui me fascine pas, donc je me dis, bah là c'est incroyable, c'est une sorte d'échappatoire à un truc qui commence à m'ennuyer et je sais pas ce que je fais de ma vie à ce moment-là. Donc j'explique ça à mes parents qui sont hyper excités en vrai par la nouvelle, parce que c'est beau d'avoir une maison de disques et des pros qui s'intéressent à mon travail. C'était la première fois que des pros s'intéressaient pour de vrai, tu vois. Parce qu'avant ça, j'avais aucune raison de me dire que ce que je faisais était bon ou non. J'avais pas de.
Je savais, validation,
je savais pas dire, en fait. J'avais aucune validation. Et moi, j'ai pas fait de solfège, pas de cours de chant. Donc j'étais une sorte de fraude dans ma tête. Pendant 3 ans, j'étais une fraude, tu vois. Maintenant, ça va mieux parce qu'il y a la victoire, il y a plein de trucs qui font que. Et c'est pas la victoire de la musique, en fait, parce que les pros, c'est cool, mais ça veut rien dire. Ce qui veut vraiment dire quelque chose, c'est quand un morceau, il est écouté 10 millions de fois, 30 millions de fois, tu vois. Parce que ça veut dire qu'il est fédérateur. Je dis pas que la musique est bonne pour autant, mais être fédérateur,
c'est
un.
Pourquoi tu dis pas que la musique est bonne?
Non, moi j'aime bien la musique. Hein,
non, mais pourquoi tu dis pas que ta musique est bonne? Parce que tu vois, j'ai l'impression que et c'est une espèce de cheval de bataille que j'ai sur ce podcast, de recevoir des invités qui sont extrêmement inspirants et aucun n'arrive à me dire ce que je fais c'est bien.
Ah, mais moi j'aime bien.
Parce que tu vois, c'est oui, t'as un univers, tu fédères, mais au-delà de ça. Enfin, après, oui, c'est vrai
on
que
aime,
le
on
fait,
aime pas, tu
on
vois.
Aime ou même pas, t'as raison, c'est subjectif.
Ouais.
Mais je veux dire, il y a quand même, enfin, tu vois, juste, tu vois, c'est des paroles qui sont profondes, qui touchent. Enfin,
merci,
tu vois,
merci
voilà,
Louise,
ton travail
cool. Est
bon.
Ah bah merci infiniment, vraiment, c'est gentil comme tout. Bah, ça me fait plaisir. Et en fait,
non, mais tu dis chemin de sortie en tout cas. Tu
ouais,
dis,
c'est
en fait,
une échappatoire.
Là,
c'est
là
une échappatoire,
tu dis quelqu'un de professionnel.
Exactement.
Reconnaît
il valide
qu'en fait,
mon travail, il y a un talent.
Chose.
Voilà, il y a un potentiel. Et par rapport au truc de fraude et tout ça, c'est juste que je pense qu'on a du mal à se dire ah ouais, ce que je fais pour moi à la base et tout ça, d'autres se l'approprient et d'autres kiffent. Et c'est toujours quand on fait un album, on est jamais pleinement satisfait, c'est normal. Mais après, moi, honnêtement, j'aime bien ma musique. Enfin, y a des morceaux que j'écoute pour le plaisir et je trouve ça cool, tu vois. Maintenant, quand tu les as écoutés 1000 fois, forcément, à force de les faire, tu peux plus les entendre. Mais quand je les crée, je suis toujours assez excité et heureux, tu vois. Je suis pas des artistes qui délaissent leur boulot ou qui n'osent pas. Je m'écoute pas en interview, par contre, c'est horrible. Mais mais toi, je sais pas si tu t'écoutes parfois, mais c'est dur.
Non, en vrai, je m'écoute pas.
Par
ou
exemple,
alors...
ceci, tu vas l'écouter, par exemple,
non, je vais pas l'écouter. Bah, j'ai la chance de travailler avec Marine Big Up qui est juste en face de nous, qui m'accompagne maintenant sur le podcast, donc qui monte en vidéo et en audio. Donc après, parfois, t'as des invités qui me disent, on les citera pas, mais ouais, j'ai peur d'avoir dit des conneries. Donc là, je dois me retaper tout l'épisode en mode, ok, ça, on va couper et tout.
Ouais,
franchement, c'est rare. Globalement, okay, même okay. Les gens me disent, franchement, laisse, tout ce que j'ai dit, je le grave, pense.
Ouais. Bien sûr, ouais, mais quand on vient ici, c'est le but quand même.
Ouais, c'est un peu le but.
Et donc, Théo me signe, j'ai la validation, je suis très content. On commence à travailler vraiment, du coup, sur toute l'année 2020, qui est un peu en pause mondiale. En gros, j'ai le temps d'écrire quelques morceaux et d'écrire un EP qui sort un an et demi plus tard, en début 2022, le premier EP avec un Georges Marie et un Ange, mais qui n'est pas le premier single, il y en a eu deux autres avant ça. Et d'ailleurs, on a toujours l'impression qu'un Georges Marie et un Ange a complètement a tout lancé, mais en fait, avant TikTok, avant les on en parlera, mais avant la tendance, l'effervescence autour du truc, j'avais rempli une cigale en mai 2022, donc bien avant que ça prenne en tendance, il y avait déjà un début de truc, parce que ça peut être réducteur de dire que j'ai percé grâce à TikTok. C'est un immense tremplin, tu vois, c'est un propulseur énorme. Et ça a décuplé le genre de nombre de personnes qui m'écoutent, mais il y avait déjà une sorte de public qui se créait avant ça et tout ça. Moi, j'arrête de. Voilà. Et donc, tout ça pour dire je fais stopper avec mon frère, du coup. Il m'aide un peu sur les prods, mais j'écris essentiellement. Enfin, j'écris tout, pardon. Je produis l'essentiel. Lui m'aide sur les arrangements finaux. On mixe à deux. Il m'enregistre. Et on fait tout stopper en famille, tu vois.
Ouais. Et c'est quoi la différence entre EP et album ?
Un EP, c'est un mini-album, en fait.
D'accord.
Ça sert un peu à s'introduire dans le monde de la musique, tu vois. J'arrive avec un album, c'est très coûteux pour une maison de disques, et c'est un gros pari, et c'est une énorme cartouche que t'envoies. Et donc, quand personne t'attend au tournant, quand personne ne t'écoute, je pense que c'est mieux d'arriver avec un EP pour dire « Salut, voilà, c'est moi, je vous dévoile quelques cartes, mais pas tout mon jeu, quoi. »
Et fondamentalement, ça change quoi, concrètement ? Ça veut dire qu'il y a moins de promos autour ? Ça veut dire est-ce qu'il est distribué ? Est-ce que c'est qu'online, l'EP ?
T'as du physique aussi, tu fais un peu ce que tu veux hein, avec un EP, mais t'as du physique aussi, nous, on a fait des vinyles et compagnie, mais ce qui change... c'est vraiment juste une question de durée et tout ça. On a quand même eu beaucoup de promos, on a eu les quotidiens, Ruquier et tout ça à l'époque, très vite, parce que j'ai des bons attachés de presse, hein, c'est pas mon père qui appelle, les bureaux de presse. Et donc, un EP c'est vraiment un mini-album, il n'y a pas de grosse différence. Bon, t'as moins de promos bien sûr, mais ça a été quand même conséquent. Et autant sur un single, t'as pas de promo, tu vois, t'envoies un clip, tu vas pas faire un Ruquier pour autant. Mais quand t'as un projet, vraiment, c'est un objet qui te permet justement d'aller en promo, quoi, l'EP. Et c'est bien de commencer avec ça. Comme je te dis, tu grilles pas trop de cartouches d'un coup.
Okay.
En gros, l'EP sort en début 2022, et là, un an plus tard, l'album. Et entre-temps, Georges Marie et un Ange qui a eu deux vies, une première vie en radio, qui a duré 6 mois sur les grosses nationales, tu vois, Virgin, enfin, Europe 2 maintenant, RTL2, France Bleu, tout ce truc-là, qui ont été assez en vrai avant-gardistes, c'était cool parce qu'ils étaient là très, très tôt. Et puis ensuite, l'été dernier, en juillet, sur TikTok, il y a une reprise de Nardo qui reprend le morceau et qui lui rend un petit peu toute sa tendresse, tu vois. C'est, je sais pas comment dire ça, mais il rend justice à la douceur du titre parce qu'il fait un piano-voix, qu'on comprend très bien les paroles pour le coup. Et que on fera l'amour dans les nuages, tout ça, c'est une sorte d'idéalisme romantique, je sais pas comment dire, d'idéal romantique. Ouais, je trouve qu'on est beaucoup plus conscient en fait sur sa reprise. Et donc la France, la Belgique et compagnie s'en lentichent, se prennent d'affection pour cette chanson.
Et lui, Nardo, c'est un chanteur ?
Et à la base, il est chanteur, il faisait beaucoup de reprises, maintenant il a sorti un truc à lui aussi, un morceau qui s'appelle Enfant Roi. Mais sinon, à la base, il faisait des reprises, mais il avait 400 abonnés sur TikTok, il n'y avait rien.
Non.
Ah ouais, dingue. En fait, c'est juste une question d'algorithme et de chance, de hasard inouï.
Et de bons titres. Il a fait combien de vues ce son là, sur son compte ?
Sur son compte, la reprise, elle a fait 7 millions de vues, je pense. D'accord. Et surtout, le morceau, il a été repris genre 100 000 fois. Tu vois. C'est devenu une tendance de ouf. Cet été, j'entendais que ça, j'allais sur mon TikTok et dans ta For You, t'avais que Docteur, Docteur, Docteur. Et
ça fait quoi rigolo. Ça ?
Et c'était ouf. Mais c'était flippant aussi parce que c'était pas ma voix à moi, c'était une reprise. Et donc je me suis dit, merde, j'ai un tube. J'ai un tube, mais les gens. En fait, c'est très cool qu'ils le déforment. Mais les gens, ils vont se dire que c'est lui qui l'a écrite, tu vois. Et ça, c'est pas le but parce que comme artiste, t'as quand même un besoin de reconnaissance et une envie que ta musique soit reconnue. Voilà, et donc j'ai débarqué sur TikTok alors parce qu'avant ça j'y étais pas vraiment. J'avais une sorte d'aversion par rapport à l'application en soi, mais déjà une sorte de trop plein de réseaux. Et encore aujourd'hui, moi j'en peux plus des messages, tu vois. J'ai développé une hantise des messages,
messagophobie.
Ouais, c'est marrant, mais je pense qu'on est beaucoup à développer ça quand il y a beaucoup de demandes. Ça devient un peu horrible d'ouvrir un mélo, quoi. Et donc, tout ça pour dire que je me mets sur TikTok sur les ordres de mon label qui me disent vas-y, il faut absolument que tu
Choix.
Bien sûr, et j'avais pas le choix, c'est vrai, parce que le truc était en train de monter. Et donc j'arrive et pour le coup j'ai pas été bête parce que je fais un TikTok dans lequel je dis voilà bah, avec humour tu vois, mais genre salut c'est moi qui fais cette chanson, mais sans c'était pas égocentré, c'était tranquille. Et en fait il y avait une blague à faire dans le sens où tout le monde commentait son TikTok en mode ah c'est tellement mieux que l'original machin. Et donc j'ai fait salut c'est moi, merci pour tout l'amour autour de la chanson machin. Et puis je mets tous les screenshots des commentaires en mode un peu vicose tu vois, mais gentiment. Et comme sur TikTok les gens ont 10 ans d'âge pas mental en fait, juste ils ont 10 ans globalement, ils sont en très premier degré et donc ils m'ont pris pour une victime et ils se sont devenus des soldats et ils ont défendu le titre et l'original partout. La vidéo elle aussi a fait quoi 7 millions de vues tu vois, et j'ai pris je sais pas 100 000 abonnés sur 2 semaines avec ce TikTok, c'était n'importe quoi. Et les radios ont commencé à reprendre l'original et bref, et tout s'est bien fini. Et pour Nardo aussi, parce qu'il a développé une belle communauté, qui fait des concerts et qui fait ses chansons à lui. Et puis de mon côté, bah, tout va bien aussi.
Ok. Non, mais c'est fou, hein. Ça, c'est vrai que TikTok a quand même rebattu les cartes de l'industrie de la musique.
Mais c'est fou. Hein. De ça a manière. Tout changé, quoi.
Ça fait peur, en fait, parfois, c'est, voilà, en fait d'une certaine manière, je trouve que c'est positif parce que bon, l'industrie de la musique ne se portait pas forcément bien avec tous les streams illégaux.
Ouais,
enfin,
tout à fait,
maintenant, il y a les Spotify, etc., qui redorent un peu aussi. Mais là, mais c'était quand même plus dur qu'à l'époque où
absolument,
vraiment les artistes vivaient sur les albums. Pris d'un autre côté, je pense qu'il y a aussi un travers qui est en train de se développer où on voit certains artistes sortir des sons pour que ça perce sur TikTok.
Quoi. Ouais, tout à fait.
Sans
tout
les
à fait.
Citer, Jason Derulo.
Bien sûr, mais en fait, moi, il y a deux trucs sur TikTok, un truc très positif et un autre qui est négatif. Ce qui est très positif, c'est... Attends, j'avais un truc intelligent à dire. Je te jure, et je le perds. Non, ah oui, voilà. C'est que TikTok, il rend la... Maintenant, en fait, une chanson, elle perce parce qu'elle le mérite, entre guillemets, ou en tout cas, c'est très aléatoire. Et à l'époque, en fait, les sons marchaient grâce à la radio, et la radio, ça dépendait de 100 personnes et de 100 mecs qui se connaissaient, qui étaient copains, et les attachés de presse et les programmateurs, en fait, et c'est tous mes copains, donc je ne leur en veux pas, mais il y avait un truc où c'était une question de copinage, quoi, et de maisons de disques, et de ceci, cela, et je sais pas, Sony Universal envoie ceci à Virgin, et parce qu'ils sont copains, ils vont le passer à l'époque, hein, aujourd'hui c'est moins comme ça. Mais c'était vraiment une question de grande famille. Et là, j'ai l'impression que TikTok et tous les réseaux, ils ont redonné leur chance vraiment à tout le monde, tu vois. Ça donne une...
On est tous
sur un pied d'égalité, en fait. Absolument. Pour percer et pour avoir un morceau qui fait le buzz. Mais c'est la loterie, quoi. C'est la loterie absolue. Et tout le monde s'y essaye. Et je pense que ça, c'est une très bonne chose. Parce que ça veut dire qu'on perce pas grâce à un groupe, à un microcosme. Par contre, ce qui est moins bien, c'est le formatage, ouais, comme tu dis, tu vois, de penser chanson TikTok. Et les gens, ils connaissent un passage de 15 secondes sur une chanson, ils connaissent pas le reste, forcément. On consomme de façon un peu affreuse. Moi, je trouve les versions accélérées, je trouve ça dégueulasse, très souvent, tu vois. Et après, tu vois que les artistes publient sur Spotify les versions accélérées. Mais je trouve ça. Enfin, tu penses pas ton morceau comme ça, en fait. Donc, ça dénature l'œuvre. Après. Si les gens apprécient, très bien, en fait. Et je pourrais très, très bien kiffer une version accélérée. Je fais un peu le boomer, en vrai, à ça.
Non, tu veux
mais,
pas le boomer. Comment je l'interprète, c'est
spécial,
que...
spécial, quoi.
En fait, je crois... Pour moi, nos goûts sont politiques. Et je dis ça en plusieurs sens. Mais déjà, parce qu'on nous apprend à aimer ce qu'on nous montre.
Bien sûr.
Et ça vaut pour tout, tu vois. J'ai bien envie qu'on parle de mode. Ouais. Parce que c'est intéressant. Enfin, ça m'intéresse ce que tu as à dire. Moi, j'ai une marque de sous-vêtements qui s'appelle Je ne sais quoi. Où, justement, je casse beaucoup... avec les codes de la mode traditionnelle, mais parce qu'en fait, pour moi, on a appris à... Quand tu dis, tu vois, j'aime le beau, j'aime les belles silhouettes, oui, parce qu'en fait, j'imagine, tu vois, que la plupart des belles silhouettes auxquelles tu penses au défilé, c'est que c'est des femmes extrêmement minces, voire maigres.
Moi, quand je parle de silhouette...
On a montré le désirable, on a construit le désirable comme ça, tu vois.
Je pense à des costumes très cintrés pour moi. Je parle de silhouette vraiment, je parle le costume, tu vois.
Ouais.
Mais je vois ce que tu veux dire, bien sûr.
La plupart des femmes qui aspirent à avoir une certaine silhouette, c'est parce qu'on leur a montré une certaine silhouette. Et c'est pareil, à mon avis, dans la musique, tu vois. Mais moi, j'en suis la première victime, tu vois. Je veux dire, prendre un exemple très concret. J'ai fait une vidéo sur YouTube il n'y a pas très longtemps. Le culte de la minceur est de retour.
Ouais, ouais.
Le retour du culte de la minceur, dont la mode est en partie responsable, dans le sens où, comme la mode, ce sont des cycles, et bien la mode des années 90 revient sur le devant de la scène. Mode
donc, que j'ai... et compagnie.
Exactement. Mode que j'ai vachement critiqué dans les années 2010 parce que j'étais là, non mais les tailles basses, les petits crop tops, les gilets, genre c'était cringe, genre c'était
en fait,
tellement moche.
Tellement fort,
et en fait, maintenant, à force de le voir porter, par des nanas stylées qui en vrai cool. ont un style, le portent bien, je suis en train de me dire oh là là, mais en vrai
bah, mais la vie en fait elle te fait aimer n'importe quoi.
Ouais, c'est clair, c'est clair. Et puis des I am Gia, enfin tu vois, des comme ça, des marques sont un peu entre le prêt-à-porter et la couture, où vraiment je regardais la dernière fois parce qu'on fait des veilles pour ma marque de sous-vêtements, des tendances, etc. Et je me suis dit, mais je tournerai aussi les images après, je veux dire, c'est fascinant, t'as l'impression que c'est vraiment un shooting des années 2002, c'est-à-dire que c'est une fille qui est contre une grosse voiture.
Ouais, c'est ouf.
C'est très mal cadré, mais ils l'ont fait exprès, c'est ça qui est fascinant.
Jürgen Taylor qui font un truc hyper...
Avec un petit ensemble jogging rose, tu sais.
Je vois trop bien, bien sûr, en velours limite.
Limite, je trouvais ça beau.
C'est ouf. Hein.
Bref, tout ça pour dire que pour la musique, je pense que c'est pareil. En fait, c'est qu'à force de nous montrer des musiques accélérées, en fait, on va finir par trouver ça
on a
stylé, on va finir par
fait,
préférer
lent.
Ça.
Ouais, non, mais c'est vrai, mais bien sûr. De toute façon, c'est une question de cycle, comme tu dis. Et, ouais, en fait, chaque période a ses obsessions, tu vois. Et je regardais les archives Ina, parce que j'adore regarder ça,
j'adore.
Comme tout le monde. Et c'est marrant parce que je donnais une interview à Melty et un commentaire top comme sur TikTok, c'est genre putain, on dirait un des jeunes qui parle chez Ina. Ça m'a fait rire, j'étais très content. Et du coup, je suis allé revoir cette vidéo, les jeunes, comment voyaient les jeunes voyaient l'an 2000, tu vois, très connue celle-là, c'est une des classiques de Ina. Et c'est marrant parce que c'est dans les années 60, je pense, fin des années 60, et ils parlent tous que d'une seule chose, c'est l'espace, tu vois, la technologie. Et à l'époque, il y avait une sorte de. Ils étaient fascinés par l'espace. Et aujourd'hui, beaucoup moins. Aujourd'hui, c'est un truc qui. Si tu parles de l'an 2100 aux jeunes, on va parler de climat, on va parler de. Et chaque période a ses obsessions. Et je pense qu'il est question de cycle aussi, bien sûr. Et c'est vrai que. Mais sauf que le fait est que sur TikTok. Les cycles, ils durent 2 semaines. Genre,
ouais.
Mais ce truc de accélérer, je juge pas qui va les écouter parce que moi-même, je vais écouter des remix accélérés et tout ça. Mais ça met en question parfois même ta façon de concevoir de la musique en fait. Parce que moi, j'écris un morceau que je kiffe de ouf et puis tu l'écoutes et tu compares à des choses que tu vois et tout ce qui fonctionne. Et en effet, c'est beaucoup plus lent et tu te dis, mais comment est-ce que ça peut marcher? Est-ce que ça vaut la peine de le sortir si c'est pour que ça marche pas? Tu vois? Et je me pose pas trop ces questions, mais c'est. Ça peut quand même venir au centre d'une discussion, tu vois, et je serais pas étonné. J'ai la chance de travailler dans un label qui est hyper défenseur de la liberté de création, tu vois. On fait ce qu'on veut, il y a Philippe Catherine, je veux dire, il fait ce qu'il veut, tu vois. On est vraiment maître de notre œuvre et c'est hyper agréable et c'est une chance inouïe. Mais je serais pas étonné d'entendre un DA dans une grosse major dire non, mais c'est trop lent, tu vois, c'est trop lent et c'est un peu flippant, quelquefois. Et ce délire des chansons toujours plus courtes, de plus en plus courtes, ça me dérange pas parce que je suis un grand flemmard et que faire une chanson de plus de 3 minutes, c'est compliqué, tu vois. Mais vraiment, on est dans une ère du hyper, hyper, hyper temporaire, les gens se lassent hyper vite. Et ça fait peur. En tant qu'artiste, tu te dis, mais en fait, ils vont me kiffer 6 mois et puis après, ça sera fini. C'est pour ça qu'il faut arriver à générer aussi un truc humain et que ce soit plus fort que ouais. l'œuvre, que ça dépasse l'œuvre.
Mais c'est fou parce que t'as totalement raison et puis c'est vrai dans tous les univers. Mais j'avais l'impression de l'extérieur que les artistes étaient assez préservés de cette. Recherche de la rapidité, de ce rythme effréné, dans le sens où tu vois un Orelsan, je sais pas combien de temps on a attendu son album.
Bien sûr,
mais on l'a attendu. Hein.
Parce que
Big Flo et Oli, ils ont arrêté pendant aussi 2 ans, un
ouais,
truc comme
bien
ça.
Sûr. Enfin, non, mais Stromae, il a 8 ans de pause.
8 ans de pause, oui, j'ai l'impression
sont,
que.
Orelsan, Stromae et tout, tu vois, ils peuvent se le permettre parce qu'ils ont une fanbase qui est tellement acquise. Okay. Et
pour toi,
énorme.
Ça dépend de la puissance de la fanbase.
Je pense que quand tu commences, en tout cas, il faut redoubler d'efforts pour arriver à être régulier et constant. Moi, j'ai pas envie, moi, j'ai qu'une envie, c'est de. Prendre 2-3 ans pour faire le deuxième et pour qu'il soit meilleur encore, tu vois. Premier album, je l'aime bien et tout, mais c'est un 13,5. J'aimerais que le deuxième soit un 16, tu vois. Et pour ça, il faut prendre le temps, il faut prendre. En fait, aujourd'hui, avec les plateformes et tout, les plateformes, elles veulent tout le temps être nourries constamment, Spotify et tout, ils demandent de la nouveauté. Et donc, le label va, même si c'est un super label, ils vont pousser à ce qu'il y ait une réédition dans 6 mois, dans 1 an, avec 5 titres de plus, pour une sorte de réapprovisionnement. Comment on dit ça?
Mise à jour.
Mise à jour en rayon, tu vois, aussi, en physique, parce que pour les fêtes de Noël et tout ça. Et tout
c'est un peu pareil
calculé,
pour les livres.
C'est comme pour les livres,
j'ai,
tu
j'ai
vois.
J'ai écrit un livre, donc j'ai l'édition premium.
À la bonne période, l'édition premium, tu vois. Mais et en fait, est-ce que ça a du sens de faire une réédition pour mon album alors que j'ai même pas de brouillons qui n'ont pas été utilisés ou quoi? Tout ce que j'ai écrit, ça a été.
Pour moi, ça a du sens. Enfin, si je prends le cas de mon livre, pourquoi je l'ai fait? C'est parce qu'il était en rupture de stock.
Oui, d'accord. Dans ce
cas-là,
tu
peux plus le trouver sinon, quoi.
Mais tu peux en refaire un stock.
Oui, c'est sûr. Mais donc à ce moment-là, autant pourquoi pas en
nouveau,
refaire
quoi.
Un.
Ouais, bien sûr. En
l'occurrence,
ajouts,
moi, la mise en page, j'étais pas fan, donc je suis contente
très
de
bien
en avoir
okay.
fait.
Dans ce cas-là,
une.
Bien sûr. Ouais, tu fais des corrections, tu fais des
mais,
ajouts.
Mais
tu...
sinon, t'as raison. Moi, je suis totalement de l'école. Et honnêtement,
temps,
je pense que la vie nous donnera raison.
Je pense aussi
que je préfère prendre 2 ans pour écrire un livre ou 3 ans et qu'il soit vraiment bien.
Abouti,
et qui ouais. dure et qui l'est voilà
sûr,
un sens que d'en sortir un tous les ans comme certains font parce qu'ils vendent bien et qu'ils capitalisent sur leur nom, tu vois, enfin Exactement. C'est mon parti pris. En fait, moi, sinon, j'y prendrais pas de plaisir, déjà.
Donc, bien sûr. Non, mais il faut, moi, tu peux pas sortir un truc dont t'es pas fier, je pense. En tout cas, si tu fais ça avec passion et que t'es vraiment pleinement investi, c'est difficile de sortir un morceau, un album, un livre dont t'es pas fier. C'est pas possible. Ça me semble, en tout cas, tout à fait inconcevable. Même si tu vois des défauts, c'est normal. Tu peux jamais être pleinement satisfaite. Ouais. Mais il faut qu'il y ait une base très solide. Et donc, voilà. Et j'ai envie de prendre le temps pour le deuxième et de faire ça... bien, mais c'est vrai que l'époque qui actuelle, elle ne permet pas forcément ça, quoi. Il y a une demande constante et c'est vrai que j'ai l'impression que si tu fais pas un TikTok tous les deux semaines, et encore là, c'est très peu, ben on t'oublie, quoi. Ouais. Donc c'est un peu dur.
De quoi est-ce que tu te nourris pour écrire tes chansons?
Bonne question. Plein de choses différentes en réalité. Il n'y a jamais d'automatisme, mais sur l'EP, donc le premier projet qui est sorti il y a un an, il s'appelait Un jour je, et donc c'était un peu une sorte de tous mes fantasmes et toutes mes projections un peu idéalisées de ma propre vie à moi. C'était une sorte de wishlist en fait pour ma vie en musique, tu vois, écrite. C'était maman, un jour je serai une superstar, dans Menteur, un jour je marierai un ange, pour ce côté recherche dans l'amour idéal, passionnel. Et l'album, c'est déjà un peu plus ancré dans mon réel à moi. Il y a des morceaux qui sont inspirés de Jour moins 3, c'est ma première histoire d'amour réciproque, c'est les prémices de l'amour, c'est quand tout va bien, quand tu te dis qu'au bout de trois rencarts, en fait, t'es tellement amoureux de l'amour que tu t'imagines avoir des gosses et papa, alors qu'en fait, tu connais même pas encore qui tu as en face de toi, mais il y a une idéalisation comme ça. Regarde-moi, c'est le titre de l'album et c'est aussi un morceau. Et en fait, c'est un regard de moi d'amour, c'est regard de moi. C'est une sorte de regarde-moi, c'est un cri du cœur, un appel à l'aide, et plus regarde-moi, trouve la beauté qui est en moi, que regarde-moi, je suis beau, tu vois, parce que avec l'image que je dégage et compagnie, on peut avoir une idée très égocentrée de moi, je comprendrais, hein, alors que pas tant que ça en réalité. Et en fait, là, je m'inspire de Lady Gaga, qui est une grande femme et que j'adore, c'est mon idole depuis toujours, et en fait, dans une interview, elle racontait qu'à l'époque où elle s'est mise à chanter dans des bars chantants et compagnie, au piano, elle était personne, elle n'était pas Lady Gaga, il n'y avait pas les perruques ni les parures, et personne ne l'écoutait, parce que c'était du jazz, c'était pas forcément, voilà, super catchy, quoi, comme on dirait. Et alors un jour, elle s'est mise toute nue, et on l'a regardée, enfin. Et l'anecdote, elle est rigolote, et en même temps, elle est pleine de vérité, tu vois,
pleine
de vérité, elle est triste. Et Regarde-moi, ça raconte l'artiste qui est prêt à faire tout et n'importe quoi pour être vu. Il y a un passage, et c'est mon préféré sur l'album, c'est... où je chante ce soir, je fais des bêtises, je m'arrache à coups de tease, la foule adore ma triste comédie. Ce soir, je strip et je tease. Et c'est ce truc-là, tu vois. Et c'est l'artiste qui est prêt à tout pour avoir un regard, juste deux yeux bienveillants, un sourire conquis, séduit. Et ça, c'est un peu ma vie aussi, en vrai. Avec moins de pathétique. L'aspect pathétique est moins poussé que dans la chanson, tu vois. Mais donc, je m'inspire de vraies choses. Et puis, j'invente des histoires aussi. J'aime bien endosser des rôles qui ne sont pas les miens. Parce que j'estime qu'à 21 ans, j'ai pas vécu grand-chose encore. Et qu'écrire un album autobiographique à mon âge, ça serait juste chiant pour tout le monde. Et donc, j'en rends des histoires. Il y a un morceau qui s'appelle « J'aime ta violence », c'est l'un de mes préférés, et dans lequel j'endosse le rôle d'un cocaïnomane, en tout cas quelqu'un qui est addict à cette drogue, et qui en a besoin pour se sentir le plus fort, et qui en fait sa meilleure copine. Et donc, j'ouvre le texte avec deux lignes qui disent « Je pourrais faire la guerre à n'importe qui, je pourrais faire l'amour à n'importe quoi », donc un sentiment de toute puissance, tu vois. « Je pourrais faire la cour à Daminelli, je suis beau depuis que j'ai tous les droits », et puis je m'adresse à la cour. Alors c'est une sorte de double lecture, on le capte pas si je le dis pas forcément, mais après je dis « J'aime ta violence qui trace dans mes veines, je suis le plus fort depuis que nous sommes amis, tu n'es pas si blanche que tu en as l'air ». Je pense à la mort depuis que tu es parti. Et puis on se rend compte en fait qu'il a besoin de sa dose nécessairement, forcément. Ça devient une addiction et c'est moche. Et ça finit très mal puisqu'il meurt. C'est une sorte de tragédie autour de ça. Et j'aime bien, en fait, comme il faut parler d'excès, moi c'est ça qui m'intéresse. C'est la première chose que je t'ai dit quand on s'est rencontré, mais je suis excessif. Et dans la musique aussi, tu vois, très baroque en fait. Très épique, très romantique donc. Et j'aime bien. C'est pour ça que j'aime le kitsch en fait. Et là je lis Kundera, enfin je commence à lire. Et donc. Je lis
L'insoutenable légèreté de l'être.
Absolument, j'en suis au tout début, tu vois. Et il parle du kitsch, il en parle très bien. Et j'aime bien cet excès de beauté, en fait, cet excès de. Les excès de tout. Pour rendre une histoire captivante, il faut qu'elle soit excessive.
Tu parles pas mal de mort aussi, je trouve.
Oui, c'est vrai, ça revient souvent,
enfin,
t'as raison.
En fait, c'est pas forcément que tu parles de mort, mais tu vois, j'ai écouté tes chansons, j'ai regardé un peu les paroles.
Souvent. Mort revient souvent.
Et le mot mort revient souvent. Je sais pas si c'est une question de rime, mais je me suis dit, putain, à 21 ans, ça l'a obsédé un
dark.
Peu.
C'est pas sombre comme on pourrait penser du tout, tu vois. C'est de nouveau, la mort, ça fait partie du champ lexical quand même du romantisme, en fait, et des excès. Et il y a rien de plus excessif que la mort. Et j'aime bien, et quand je parle d'amour, je dis souvent amour à mort, tu vois. Parce que c'est ça l'amour. Enfin,
pour toi, aimer, c'est forcément aimer en mourir.
C'est pour toujours. En fait, c'est pour toujours. Mais c'est pas vrai. Hein. C'est comme on en parlait tout à l'heure. Moi, je vends de nouveau un fantasme. Hein. Je vends quelque chose qui est pas réel. Mais bah, parce que le rôle d'un artiste, c'est pas de vendre du réel. Et c'est pour ça que j'aime pas l'art contemporain. Tu vois. Moi, j'aime bien l'art qui vend quelque chose de qui n'est pas possible d'atteindre dans la vie de tous les jours. Tu vois.
Et tu penses pas que ça crée de la frustration ?
Non, ça crée du rêve. Okay. Ça peut avoir des retombées frustrantes, bien sûr, comme je les ai vécues, on l'a tous les deux vécues, mais moi je pense que, tu vois, moi j'aime bien Willy Wonka, j'aime bien David Bowie, les dandys qui nous font rêver et qui nous invitent dans un monde qui est merveilleux, qui est fabuleux, qui n'existe pas forcément dans la vraie vie, mais c'est à ça que ça sert aussi. Un artiste, je trouve. En tout cas, moi, ma mission, c'est de vendre du rêve. Je l'ai dit partout, mais vraiment, j'ai l'impression d'être né pour ça, quoi. Et donc, quand je parle d'amour à mort, ça vend du rêve, tu vois. Ça peut être bien ou non, hein. Mais dans Jour moins 3, justement, donc, ce morceau sur les prémices de l'amour et l'amour pour toujours, je dis, sur le pont, j'aime bien ce qui est écrit, je dis, rien ne va trop vite pour un cœur amoureux. Je suis de ceux qui rêvent d'amour à mort sur un ciel bleu. Rien ne va trop vite pour un cœur amoureux, je suis de ceux qui rêvent, moi. Et en gros, ça, c'est tout à fait moi.
Genre, on pourrait mettre Pierre, synonyme rêveur.
Ouais, rêveur, et absolument. C'est tout à fait moi, et ce truc de se permettre de rêver, en fait, s'autoriser à ça. Et en fait, rêver, c'est s'autoriser à, en effet, être frustré après, derrière. C'est ça, en fait. Mais le rêve, il amène à la frustration, mais il amène aussi aux plus grandes joies, quoi. Et il n'y a rien de plus excitant quand on... Je sais pas, quand on construit une maison, quand on fait sa déco, que de penser à la décoration. C'est pas une fois qu'on a acheté ses meubles qu'on est heureux, tu vois.
Je suis totalement d'accord avec toi. Mais je sais pas, en fait, j'ai l'impression un petit peu dans tes paroles qu'il y a aussi du rêve de par une déception du réel.
Oui, c'est aussi une échappatoire, c'est vrai. C'est... Mon réel, pourtant, il est assez beau. Hein. Franchement, je mène un peu une vie de rêve, en tout cas de l'extérieur, je pense que... Tout va bien et moi je.
Oui, nous, ce qui nous intéresse, c'est de l'intérieur.
mais j'ai peu de trauma, j'ai beaucoup de chance en fait. J'ai vraiment beaucoup de chance dans la vie. Je suis allé voir une énergéticienne il n'y a pas longtemps.
Ok. Donc, mais déjà, la démarche, c'est que tu n'étais pas au max de ta forme.
Mais si, en fait, c'était un luxe. C'était une curiosité. Tu vois, c'était une curiosité. J'ai un copain qui est réalisateur et qui m'a dit: mais tu dois absolument aller voir cette femme, elle est merveilleuse, elle a changé ma vie. Et comme je commence à gagner des sous, j'ai envie de tester des plaisirs que je pouvais pas me permettre autrefois, comme des massages ou des trucs de bien-être, tu vois. Et donc l'énergéticienne, ça m'a donné envie. Et j'y suis allé, et la première chose que je lui ai dit, c'est: je sais pas pourquoi je suis là.
C'est vrai, j'ai le client le plus convaincu de l'histoire.
Ouais, le mec, vraiment, qu'est-ce que je fais? Non, je lui dis, j'ai pas vraiment de trauma, en fait. Je lui dis, bon, il y a quelque chose qu'on peut aborder certains points. Voilà, je lui dis des points précis, mais très, très pudiques. Par exemple, je fais beaucoup l'amour dans le noir. Tu vois, j'aimerais bien un jour le faire à la lumière du jour, tu vois. Je parle de ça, mais je suis pas certain que je pense que c'est une question de temps qui passe et d'acceptation et compagnie. Pas sûr qu'une énergéticienne puisse y changer grand chose, mais voilà, je lui raconte deux, trois choses. Je parle des torts aussi, que c'est la première fois que je suis confronté à ça, parce que c'était le lendemain des victoires que j'étais allé. Les victoires, je me suis pas fait hater, mais c'était un peu avant, à quotidien, j'avais pris un peu cher. Mais rien de grave, tu vois. Et donc, je lui dis, bah voilà, j'aimerais bien me soucier un peu moins de, j'aime beaucoup plaire, en fait. Et donc, j'aime forcément pas déplaire, tu vois. On parle de ça à deux, et j'y suis allé, et tout ça pour te dire que j'en suis ressorti en me disant, mais en fait,
j'ai perdu mon bif.
Elle est gentille, j'ai pas perdu mon bif, tu vois, parce qu'elle était intéressante et tout ça, et elle m'a fait du bien parce qu'elle m'a touché certaines parties du corps, et moi j'aime bien être touché, donc je suis allé pour ça, mais alors à ce moment-là, tu prends un massage, c'est moins cher. Et en fait, c'était bien, mais tout va bien en réalité, tu vois, tout va bien dans ma vie, et donc je suis pas, pour revenir à ce dont on parlait, je suis pas déçu de la réalité, mais le rêve, il permet d'aller beaucoup plus loin encore, tu vois. Et c'est comme regarder un film. Pourquoi est-ce qu'on regarde un film pour voir des histoires qu'on va pas forcément vivre dans la vie de tous les jours, tu vois.
Oui. En fait, je te partage cette réflexion parce que je suis très ambivalente par rapport au rêve. C'est-à-dire que, historiquement, moi, ça a été mon échappatoire. Moi, c'était dans les livres. Chacun son truc. Mais donc, moi, j'ai lu, je sais pas combien de livres, dans mes 6 à 20 ans. Et en fait, je me rends compte avec le recul... déjà que ça a eu un impact négatif sur l'amour,
C'est parce vrai que, ouais, sur ta vision de l'amour et tes attentes. Bah,
si j'étais cible jusqu'à 20 ans, ouais, c'est pas pour rien, tu vois. C'est qu'en fait, j'attendais clairement.
Tu penses vraiment
que c'est
les livres
blanc
qui ont eu un ouais rôle là, d'accord, okay.
Je pense que c'est multifactoriel.
Bien sûr.
Tu vois,
sûr,
ce serait.
Sûr.
On pourrait pas. Voilà, mais je pense vraiment que ça a joué parce que. Et je l'avais dit dans le podcast avec Rosa, mais moi, j'attendais d'être amoureuse avant de sortir avec quelqu'un. Ce qui, pour le coup, moi, n'arrive pas facilement, tu vois.
Ouais, je comprends, bien sûr.
Mais parce que quand je lisais Jane Austen, c'était. Mais genre cette une puissance fou, de sentiment, ouais, 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 ouais. Je la lisais et je me disais oh là là, mais c'est tellement du jour où je ressentirais ouais ça. En fait, je le ressentais jamais, tu vois. Et au-delà de ça, je pense que ça peut être une prison dorée. Genre, je pense que vraiment, on peut s'enfermer aussi dans un monde.
Un peu oisif.
Ouais, un monde qui n'existe pas et où du coup, le réel ne fait que nous décevoir parce que ben, peut-être les gens ne sont pas assez puissants, parce que les conversations ne sont pas assez profondes, parce que les émotions sont moins. Et en fait, mais. Le réel, il est chiant, moi je suis d'accord avec toi.
Bien sûr,
vois,
quand on
dernière,
est une petite girl et plutôt au collège, ça n'a rien à voir, bien
bah
sûr.
Ouais, rien à voir.
Évidemment.
Et j'aimerais bien, tu vois, aimer le réalisme. Mais moi, que ce soit en littérature ou dans les films, le réalisme, ça me parle
non
pas
ça
du
m'emmerde
tout. Ça m'emmerde. Ouais, d'ailleurs, j'étais à Cannes Series, j'ai regardé Vernon Subutex, en plus de Virginie Despentes que j'adore.
Ouais, ouais, ouais.
J'avais envie de partir de la salle tellement c'était brut et cru.
C'est
moi,
ça
le
que
cru,
j'aime
pour
pas
moi,
non plus dans l'art
l'écran,
contemporain. C'est ça qui me parle pas tant que ça non plus, tu vois. C'est le réel. Moi, le réalisme, bah justement, tu vois, bah c'est ça. C'est que ça fait doublon avec ce qu'on vit tous les jours et que ça m'intéresse pas parce que je le vois, en fait. Même si j'ai une réalité qui est plutôt belle, tu vois. Je souffre de rien, mais on est confronté à ça tous les jours. Et donc, pour moi, bah justement, dans l'art, t'as raison. En fait, je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Mais c'est se permettre de rêver quelquefois, mais c'est pas rêver sa vie, c'est pas ça, tu vois. Alors ouais, à ce moment-là, tu finis par te perdre, en fait.
Mais en fait, moi, parfois, tu vois, quand j'ai trop de galères entrepreneuriales ou quoi, je me dis, ok, je vais tout arrêter, puis je vais écrire des livres. Puis c'est comme si c'était une espèce de solution. Alors que c'est pas une solution, je suis sûre que je galérerais aussi à écrire, parce que, en fait, j'écris déjà, mais là, je parlais plutôt de romans.
D'accord.
Parce que moi,
ouais,
je trouve ça trop beau, le fait de pouvoir écrire.
C'est magnifique.
Là, pour le coup, c'est toi qui choisis ce qui se passe.
Tu te dis que tu peux
passe,
le faire où tu veux, tu te dis que tu peux le faire quand tu veux,
ouais,
que t'es maître de ton...
Avec la puissance des sentiments que tu veux.
Mais je pense que
c'est un peu un piège, tu vois. C'est que du coup, un peu genre, je vois un peu ça comme la réalité me satisfait plus, donc je vais écrire une réalité qui me satisfait.
Je vais m'évader, quoi. Ouais, tout à fait. Je comprends ce que tu veux dire, mais...
C'est comme ça qu'on lit de bons romans aussi. Hein.
Tout à fait, bien sûr. Non, je pense qu'il faut savoir trouver son équilibre. J'ai pas de réponse par rapport à ça, mais il faut pas.
Toi, t'en as jamais souffert, j'ai l'impression.
Non, jamais. Non. Et c'est vrai que c'est comme si on se mettait à porter des caisses de réalité virtuelle et en fait qu'on les retirait plus jamais. Ça serait affreux. Il faut parvenir d'abord à se contenter de sa réalité, mais je pense que lire un livre, ça peut rendre une réalité beaucoup plus légère, tu vois, pour des gens qui souffrent réellement. Moi, je me souviens d'une peine de cœur. Je lis un livre, j'y pense plus le temps de 30 pages, 40 pages, tu vois.
C'est vrai.
Et en fait, il faut pas se dire que la vie, c'est ça, mais il faut se dire que si jamais il y a
sweet medicine.
Voilà, absolument. Ouais, c'est ça. C'est la médication douce et saine, moi, je pense. Et je trouve que lire, c'est tellement... je lis très peu, hein. Mais maintenant, je m'y mets un petit peu, j'ai envie de devenir plus malin pour être meilleur en interview encore. Et je me dis une chose, c'est que c'est thérapeutique, en fait, ça fait beaucoup de bien. Je trouve, regarder une série, c'est très plaisant, mais ça fait pas tant de bien que ça. Lire un livre, c'est vraiment... je trouve ça sain.
Ça infuse un peu plus.
Ouais.
Pour revenir sur ce que t'as dit, l'énergéticienne, là, comme quoi t'es pudique, tu préfères faire l'amour dans le noir et tout, j'avais relevé une petite citation extraite d'un article où tu disais « je déteste mon corps ».
Ouais.
Pourquoi ? Enfin, pourquoi ?
C'est
complexe, mais
non,
tu vois, depuis quand, pourquoi
mais maintenant, je le préfère largement à autrefois déjà. Quand j'étais adolescent, j'ai eu une poussée d'acné assez moche qui a duré 3 à 4 ans. J'étais un des seuls à l'école, donc c'était relou, tu vois. J'avais le goût un peu plus gonflé. Enfin, j'étais pas du tout. C'était pas horrible, mais moi, je me trouvais pas beau du tout. Mais c'est pas si mal de se trouver pas très beau à un moment donné, ça permet de développer d'autres forces. Je pense que quelqu'un qui naît très beau, il peut vite devenir fade parce que c'est une force et qu'il a pas besoin de ça pour se faire des copains, tu vois. Moi j'ai dû être drôle là, dans ma vie, et donc c'est bien, ça c'est important. Mais que dire, maintenant j'aime bien mon visage, j'ai plus de problème avec mon visage. À l'époque j'aimais pas du tout, et depuis que j'ai 18-19 ans, il y a une sorte de transition qui s'est bien passée, un glow up qui fait plaisir, tu vois. Donc ça va.
J'adore ce terme.
Ouais, je l'aime bien aussi, c'est trop plaisant de connaître un glow up. Bon, il y en a qui pourraient trouver affreux, mais en tout cas aujourd'hui, si on me dit t'es moche, ça me parle plus, enfin ça me dérange plus. Par contre le corps, bah en fait, pas que je le déteste, mais je le trouve pas, et peut-être Dieu merci, mais je le trouve pas très attirant. C'est une question de aussi de
De standard de beauté.
De standard de beauté, de d'épaule. J'aimerais bien être plus épaulé, avoir peut-être des abdos. Encore que les abdos, je m'en fous un peu. Mais c'est, je suis très très mince, très élancé. Très, je me vois, ma silhouette, je la trouve très mode, par exemple. Et pour porter un joli costume Saint-Laurent, c'est super. Mais par contre, pour faire la manche, je sais pas, moi, j'aurais pas envie de faire la manche avec moi. Mais c'est normal aussi, ça, Dieu merci. Mais tu vois, il y a un truc où je me sexualise pas moi-même. Et donc, quand quelqu'un me désire... à la fois je trouve ça merveilleux et, je suis très, très... et en même temps est-ce que je sais même pas si je suis encore prêt moi dans ma tête à être désiré, parce que je pense que ça passe d'abord par une totale acceptation de soi-même pour que ça soit divin, tu vois.
Total, est-ce qu'on arrive un jour à une totale acceptation de soi, tu vois, je suis pas sûre, hein.
Est-ce qu'en allant à la salle je serais mieux dans ma peau, j'en sais rien, tu vois, j'en ai aucune idée, j'ai jamais fait l'effort, mais je le ferai un jour, je pense, mais voilà, c'est juste je trouve pas mon corps
séduisant, quoi.
Ouais, voilà, il est difficile pour moi de le sexualiser. Et donc, c'est particulier. Mais je le trouve pas dégueulasse. C'est vrai, j'en suis pas à ce point-là, Dieu merci. Tout va bien. Mais c'est ça, quand je dis j'aime pas mon corps, c'est ça, quoi. C'est ce truc-là. Et je sais pas si certaines personnes sexualisent leur corps, mais je pense que tu peux te sentir très bien dans ton corps et te dire que je suis sexy, tu vois. Et ça, c'est le rêve de tout le monde. Moi, je me trouve pas sexy. Mais je me trouve d'autres choses, tu vois. Et c'est ça qui fait que tout va bien. Mais,
c'est que tu te reposes pas dans tous les cas sur ton apparence physique.
Mais je me trouve pas, voilà, hot, quoi.
Il y a une autre citation que j'ai... Pour le coup, là, c'est d'une de tes chansons. Alors, je t'avoue, j'ai pas noté laquelle c'était, mais tu dis « Et je meurs, moi, si le rideau tombe, et que tout ce monde ne s'y intéresse pas. »
Tout à fait.
Tu peux nous dire de quelle chanson c'est ?
C'est Regarde-moi.
Regarde-moi.
C'est mon texte préféré, je pense.
Et moi, ça m'a interpellée quand j'ai entendu ça. Je me suis demandé si c'était, pour le coup, là, vécu. Tu vois, c'est vécu par ta personne. Est-ce qu'il y a vraiment ce besoin de reconnaissance
l'explique pas, moi. C'est une bonne question. Ce besoin de reconnaissance, parce qu'il existe. Hein. Il est réel, mais je pense que beaucoup d'artistes vivent avec ce syndrome-là, une envie d'être reconnu, d'être vu, tu vois. Mais je sais pas pourquoi, parce que j'ai toujours été aimé, en réalité, par mes parents, qui s'aiment et qui nous aiment très fort, les trois enfants, mes frères et sœurs, mes amis. J'ai toujours des copains, tu vois. J'ai pas été marginalisé, j'ai pas été harcelé, heureusement. Et donc... Je m'explique pas trop ce truc-là, mais j'ai quand même, malgré ça, un besoin de vengeance et de revanche. Et tu vois, parfois, je pense plus à ce que les gens du collège vont penser de moi et dire « Ah, oh, il a percé, t'as vu, c'est ouf », que à ce que les pros vont dire. Mais je m'en fous un peu de ce que les pros vont dire. Je porte plus d'intérêt à ce que mes anciens collègues vont penser. Ce qui est un peu bête, c'est pas fondé, en fait. C'est pas fondé, mais je sais pas pourquoi. Mais c'est un truc d'artiste, tu vois, comme je te disais, Regarde-moi, c'est quand tu te retrouves sur scène... parfois, moi, ça m'est arrivé d'être confronté à des publics qui sont sceptiques, parce que tu vas jouer dans une petite ville de France où personne ne te connaît encore, tu es dans une salle communale, tu vois, tu commences, moi c'est comme ça que j'ai commencé, l'année dernière, ça fait un an que je tourne, c'est assez récent, mais j'ai fait les dates où il y avait 10 personnes qui me connaissaient, et le reste, c'est un public de mecs qui ont 50, 60, 70 ans, 70, qui sont là parce qu'en fait, il se passe un truc dans la ville, mais ils ne savent pas pourquoi. Donc, ils me regardent avec des yeux comme ça, et ils sont figés. Et moi, je cherche à tout prix une bouée de sauvetage, en fait, parmi le premier rang. Quoi. Moi, mon premier rang, c'est vraiment c'est mes bouées de sauvetage, et j'ai besoin d'un regard auquel me raccrocher. Donc, dès la première chanson, en fait, souvent, je scrute les gens en faisant des petits sourires, et je regarde qui répond, tu vois. En termes d'expression faciale, quoi. Et souvent, il y a beaucoup de visages fermés. Et c'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est juste parce qu'ils sont timides, ils sont, il faut les détendre. Sur scène, je parle beaucoup, tu vois, je raconte des blagues et tout ça. Je fais semblant d'être en détente pour les détendre aussi.
Mais je et donc, c'est ça. C'est une phrase que t'as aussi dite, je rebondis dessus, prétends et deviens.
Ouais, ouais, complètement. Ouais, prétends et deviens. C'est un peu le fake it, make it. Moi, j'ai
ouais,
fait toute
ouais,
ma
ouais.
vie.
Ouais, c'est vrai.
Toute ma vie, c'est ça. Et quand je me souviens, tu sais, on est tous un peu des fraudes quand on commence. Et on est invité à des événements via des gens. Mais en fait, la marque, elle t'a jamais invité. Mais tu vas quand même faire le photocall et tout ça pour te montrer sur ton Instagram en mode ouais, j'ai été invité par Burberry. Mais en fait, non, Riccardo Tisci, il connaît pas, il sait pas ce qui je suis, tu vois. Mais vas-y.
Et moi, ça m'intéresse les personnes qui sont pas dans tous les médias, dans
partout.
Tous les podcasts.
Pour le coup, moi, je suis partout. Hein. Pas les podcasts.
Ouais, mais je sais pas, tu vois, t'es partout, mais dans un monde assez encore traditionnel, entre guillemets.
Ouais,
genre limite, enfin, j'en sais rien, ça c'est clairement une impression de ma part, mais moi de l'extérieur, j'ai l'impression que t'es plus connu soit par nos darons,
Ouais, bien
qui
sûr.
Regarde, ah, c'est complètement Ruquier,
ça. Ouais, c'est Figaro,
Europe 1, Figaro, machin, Parisien ou par la jeune génération qui est sur TikTok.
Et tout. C'est vrai.
Et moi, j'ai que des 20-30 quasiment, donc
cool.
Là, ils te découvrent.
Génial.
voilà. C'est la meilleure communauté.
mais bien sûr, non, mais c'est vrai, et c'est ceux qui font, qui propagent le mieux le truc. Mais moi j'ai beaucoup de darons. C'est marrant, mon public, c'est essentiellement des darons, des mamans, elles m'adorent. Je sais pas pourquoi, tu vois, moi je les adore aussi.
Bah, toujours eu un truc. Je sais pas, ouais.
Il y a des rappels de, je sais pas, de Tindao, Pierre Rapsat, des trucs comme ça qui leur ont plu peut-être. Et puis même dans le personnage, il y a ce côté. C'est ce qu'ils me disent souvent, c'est pas moi qui l'invente, mais genre idéal, tu vois, et ça me fait rire. Et donc j'adore les mamans. C'est vraiment public.
J'adore.
C'est rigolo.
Mais donc pour parler de perso, attends, je m'étais noté aussi.
Ouais.
Le rôle du personnage au-delà du chanteur, en fait, c'est quoi pour un artiste? Parce que tu parlais de Lady Gaga qui est une inspiration. Elle, je pense qu'elle a poussé le truc, tu vois, à l'extrême. C'est assez impressionnant. Et encore, elle a fait un film. Mais je pense qu'avant le film, moi, je l'aurais pas reconnue dans la rue, tu vois.
Ouais,
tellement
ouais,
elle jouait toujours un rôle. Toi, comment t'as réfléchi ce personnage?
En fait, je l'ai pas réfléchi du tout. Mais c'est un prolongement de moi-même. Et je pense même que Lady Gaga, c'était un prolongement d'elle-même. Et même s'il y a une énorme différence entre la personne qui est ici, là, maintenant, et la personne sur scène qui est exaltée et hyper flamboyante, c'est en moi, c'est pas un alter ego, tu vois. C'est pas comme David Bowie qui faisait ses Ziggy Stardust. Tu vois,
Tu l'actives en fait
quand c'est propice. Et c'est aussi peut-être pour me défendre, pour me protéger, j'en sais rien. Tu vois, toutes les parures entre guillemets, c'est juste un costume très bien. Tu vois, comme je te dis, j'aime pas mon corps. Bah, justement, la mode elle me sert à ce niveau-là parce que quand je porte un très beau costume, je parle de Gucci, Saint-Laurent, c'est une marque qui est très souvent un peu épaulé, cintré à la taille, qui me font une belle silhouette. Là, je me sens vraiment beaucoup moins vulnérable, je me sens plus fort et je chante mieux en costume que je sais pas, dans un jogos ou n'importe quoi, tu vois. Et donc le personnage, c'est moi, c'est simplement qu'il est poussé à son extrême et que c'est comme si je prenais tous les curseurs et que je les poussais au maximum. Mais ça reste moi. Et je l'ai pas pensé. Il y a pas grand chose qui a été pensé en fait. On dirait. Et les gens, je l'ai lu sur Twitter, ça de nouveau, je lis beaucoup
ne
sur Twitter.
Ne jamais regarder
affreux,
Twitter, il ne faut
trop.
Pas.
Ouais, bien sûr, mais je le fais encore. Mais je vais m'arrêter avec le temps, je pense que je serai assez mature pour ça. Et les gens disent voilà, bah, Pierre Demar, ce qu'on appelle un industry plan. Et donc ça veut dire que c'est quand t'as un label qui a tout imaginé en fait et que c'était vraiment prévu pour marcher et qu'il y a tous les critères, je sais pas moi, l'air qui roule, les costumes, machin, tout ça. Et rien du tout, d'abord parce que mon label il n'intervient pas dans la musicalité, dans la direction artistique. J'ai un DA, mais il prend beaucoup de recul, enfin il est pas investi pleinement, il est investi mais différemment, quoi, t'as compris. Et autre chose, c'est que justement c'est R qui roule musicalement, mon phrasé, tout ça, rien n'a été réfléchi, pensé, intellectualisé. Tout ça s'est fait très naturellement. Et c'est pour ça que je regarde mes premières interviews, je me dis, oulala, j'avais l'air drôlement pédant, alors que j'étais pas, mais je roulais des yeux comme ça, mais c'était plus de la gêne, de la timidité du début, tu vois, tu sais pas comment te conduire. Je regarde mon premier quotidien, c'est vrai que j'ai une façon de parler, c'est particulier. Et plus le temps passe, et plus je suis en détente, tu vois. Mais rien n'a été prévu ou planifié. Donc le personnage, c'est moi, simplement, je le rends plus de nouveau excessif, tu
ouais.
vois, divertissant en fait. On fait l'entertainment, il s'agit de vendre du rêve. Et si je venais comme ça en concert, comme tu me vois aujourd'hui, je vendrais pas du rêve, donc je m'habille en conséquence.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. T'as bien réussi à gérer le stress qu'a généré cette médiatisation soudaine, enfin tu vois, à des plateaux télé. C'est marrant, parfois en plateau elle me demande avant les prods, genre, alors t'es stressé? Bon, moi je dis non parce que
ça va,
je sais pas, j'ai un podcast, je parle toutes les semaines pendant des heures, donc voilà. Mais c'est vrai qu'au début, il y avait quand même un petit truc. Je sais pas, est-ce que t'as appris à le gérer? Est-ce que c'est le fait de... Enfin, sur scène, du coup, c'est à regarder ces
die-hard
fans.
Les gens, absolument, ouais. C'est juste une question d'habitude, pour moi en tout cas. Il y en a qui s'en remettent jamais du track. Moi, les premiers concerts, c'était affreux. Je tremblais, mais physiquement, je tremblais avant de monter sur scène, et pendant une demi-heure, tu vois. Et maintenant, il y a les 3 minutes qui précèdent où je vais aux toilettes et je suis un peu foufou. Mais sinon, pour le reste, je gère beaucoup, beaucoup mieux qu'à l'époque. Et je me souviens de mon premier quotidien. On est resté 4, 5, 6 heures dans les coulisses et c'était affreux psychologiquement. Et le second, où ça s'est fait beaucoup plus tranquillement, tu vois. C'est juste une question d'habitude. Et quand tu sors de ta zone de confort, en fait, forcément, la première fois, c'est désagréable. Mais plus tu le fais et quand on parlait de franchir ses peurs, bah, c'est ça aussi. Hein. Parfois, je me retrouve sur un direct aux Victoires et je suis là, genre 30 secondes avant le direct. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je me torture, tu vois? Mais c'est comme ça, c'est quand on franchit ces peurs-là qu'on va toujours plus loin et qu'on s'accomplit, tu vois. Mais donc, beaucoup moins stressé aujourd'hui. Mmh. À l'époque, oui, à mort. Mais plus le temps passe et mieux ça va. Parce que je prends confiance aussi en mes capacité. À l'époque, il y a un an, je chantais très faux. Et aujourd'hui, beaucoup moins. Aujourd'hui, c'est de mieux en mieux, tu vois.
Oui.
Parce qu'avec la pratique, forcément, j'ai pas pris de cours de chant, donc je venais de loin. Mais au bout de 45 concerts, tu commences à avoir certains automatismes, et dont la justesse.
Et les victoires, alors raconte-nous les victoires de la musique. T'as reçu du coup la révélation pop, c'est ça, masculine de l'année.
Ouais, révélation masculine de l'année.
Tu savais tu...
Non, je savais, on sait jamais. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai pas su avant le moment crucial, télévisé en direct. J'avais un espoir parce que tout le milieu pro, et c'est le milieu pro qui vote, hein, victoire, c'est un peu un microcosme, encore une fois, c'est pas le public pour le coup sur ces catégories-là. Me disait, mais elle est pour toi, bah, parce qu'ils ont vu le développement et qu'ils étaient admiratifs du truc et que voilà. Donc j'avais envie d'y croire, tu vois, parce que j'avais fait l'Energy Music Awards 6 mois plus tôt et j'y croyais pas une seule seconde parce que c'est une question de communauté et j'étais en face de Luigi BK qui avait 5 fois plus de monde que moi, tu vois. Mais donc, les victoires, j'y croyais un peu, mais je pensais que ça aurait aussi bien pu aller à Luigi BK ou Tiakola qui était quand même favori aussi parce que bah, beaucoup plus écouté que moi. Voilà, il y avait plein de facteurs qui faisaient que je me posais des questions. C'était pas une certitude. Et la recevoir, par contre, ça a été incroyable. Ça,
tu ressens quoi sur le moment quand t'entends ton nom?
Je voulais pleurer, j'ai pas pleuré. Dommage pour le cinéma, mais
c'est... Merde!
Mais j'étais très touché. Ouais, je, à la fois, donc, j'avais cette attente, et donc je suis presque soulagé, je me dis... Et en même temps, c'est fou, c'est complètement fou. Et d'autant plus que ce nom, il sort de la bouche de Stromae. C'est lui qui m'a remis, en fait, la victoire de la musique. Et ça, je ne le savais pas, c'était une surprise absolue. Et Stromae, c'est mon idole, on l'a parlé, mais j'ai deux icônes dans la vie, c'est Lady Gaga et Stromae musicalement. Sinon, dans la mode, ce serait Karl Lagerfeld.
Tu sais qu'il était grossophobe.
C'est vrai.
Oui. Et je sais qu'il faut parfois savoir séparer, mais je dis ça parce que j'en parlais dans ma vidéo et je sais que le Met Gala lui est dédié cette année. Et je veux dire, ouais. Le mec a quand même dit. Les femmes qui critiquent les mains sur les défilés, genre c'est des fat moms eating chips in their couch.
Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Donc, en fait, il a eu beaucoup de sorties.
Il avait un œil, mais personnellement, je pense qu'il était très problématique.
Mais en fait je vais te dire, je connais pas tous les. Tu vois, tout ce qui a été dit, tout ça. Il a eu plein de sorties très foireuses, je pense, et qui sont aussi à ancrées dans une époque où on était, alors c'est pas qu'on était moins conscient, mais tu sais, c'était moins
déconstruit.
Sur le devant de, voilà, moins déconstruit, c'était moins, il y avait pas de lumière qui a été faite sur ces problèmes là, tu vois. Mais c'est pas ça pardonne rien. Par contre, humainement, au-delà de ça, parce que chacun ses parts d'ombre et sa lumière, et je pense que en interview il était quand même assez brillant. Au-delà de la vision, tu vois, genre, et si on met de côté les sorties foireuses, parce qu'il y a eu plein de sorties foireuses, hein, il était très intelligent, très 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 vif et généreux dans ses réponses. Et en fait, moi, ce que j'aime bien chez lui, mais du coup, ça amène à des choses négatives, mais c'est son entièreté, tu vois. C'est qu'aujourd'hui, en fait, je regarde les interviews des personnes populaires et je me dis que tout le monde est très lisse. Mmh. Et je me dis qu'en interview télévisée, pas forcément en podcast où on se laisse un peu plus aller, tu vois, mais. Je vais citer personne forcément, mais dans les chanteurs, chanteuses, acteurs, actrices, tout ça, je trouve que personne se trempe, tu vois. Et t'as pas l'impression de voir un pote, c'est normal, c'est pas ton pote, mais je veux dire, t'as l'impression qu'il y a un contrôle absolu de l'image, et je trouve ça hyper dommage, parce que ça laisse aucune place à des accidents heureux, à des moments de télé, des moments forts, et surtout au spontané, au naturel, et t'as l'impression de jamais connaître, en fait, ces personnes. Après, ce qui est important, c'est leur art, c'est peut-être pas la personnalité tant que ça, mais moi, je suis de ceux qui aiment savoir un petit peu qui se cache derrière la musique ou l'œuvre, globalement. Et aujourd'hui, tout est très, très poli. Enfin, y a un truc où c'est lisse. Et Karl Lagerfeld, alors ça, il avait beau avoir des
c'est sûr, il a le mérite entier, de vois, dire ce qu'il pensait et de penser ce qu'il disait. Hein.
Et il y avait des choses très intelligentes. Il y avait des choses qui étaient connes, je pense, mais il y avait des choses qui étaient très intelligentes et très drôles aussi. Et donc j'aurais aimé avoir un jour dîner avec lui, tu vois, pour en savoir plus et peut-être parler des grosses et de voir vraiment derrière le scandale, c'était quoi le problème, tu vois, c'était quoi. Et parler plein de choses, tu vois. Ouais, c'est un être captivant, mais qui a son lot de problèmes, en effet, sans doute.
Voilà, mais écoute, de toute façon, le but sur le podcast, c'est pas d'être qu'on soit d'accord sur tout, donc tu vois, je suis ravie qu'on en parle. Et donc Stromae.
Ouais, Stromae qui me remet
qui du coup, maintenant, c'est quitté, et ça, toi, tu dois te dire, limite, c'est ça la victoire.
C'était ça la victoire, c'était. Stromae, c'est mon idole, ça fait 10 ans que moi je saigne tout, enfin ça plus que ça en fait, ça fait 15 ans quasiment. Après on a eu l'occasion de parler, mais le temps d'une minute 30, hein, donc c'est très court. Et ce qui était beau, c'était qu'il répondait aux attentes que j'avais lues entre guillemets humainement, c'est qu'il était aussi simple et intelligent et gentil que ce que j'avais espéré toute ma vie, imaginé en tout cas. Et il m'a dit, la chose qu'il m'a dit, c'est bah tu sais, on regarde quelques interviews à toi avec ma femme et on rigole beaucoup. Et j'étais tellement heureux d'apprendre ça. Et puis j'ai vu son frère qui était trop charmant, qui m'a dit qu'il aimait beaucoup le morceau Regarde-moi. Donc j'étais, t'as écouté. T'as écouté, waouh, c'est fou.
L'alarme, elle est venue là.
C'est fou. Et je peux pas être sûr que Stromae ait déjà écouté l'album, mais il prendra le temps un jour ou l'autre. Mais voilà, et donc c'était un rêve qui devenait réalité ce jour-là. Tout, c'est comme si tous mes rêves avaient été une sorte de empilé sur une soirée, quoi. C'est la victoire, le trophée, la cérémonie, le tapis rouge. Il n'y a pas vraiment de tapis rouge, mais il y a un photocall. En Saint-Laurent, remis par Stromae, cette victoire. Tout était absolument féerique, quoi. Ouais. Pour le coup,
tu vois comme quoi les rêves parfois deviennent réalité.
Bien sûr, mais il faut se donner les moyens de leur donner lieu, tu vois. Qu'ils prennent vie.
Lady Gaga et Stromae, c'est toutes les deux des personnes qui ont eu des gros problèmes de santé mentale.
C'est vrai, ouais, bien sûr.
Moi, je les respecte beaucoup pour d'ailleurs en avoir parlé publiquement et pour avoir sensibilisé sur ces sujets-là. Ça te fait pas peur de te dire, putain, peut-être que ça va avec la vie d'artiste, peut-être que... Parce que du coup, de ce que tu me dis, t'en as pas connu encore.
Non, j'ai beaucoup de chance à ce niveau-là. Je pense que je viens d'un... J'ai un socle qui est très solide, tu vois, une base qui est très très solide parce que justement j'ai été aimé et élevé dans un milieu qui est sain, j'ai l'impression, avec des valeurs que je trouve belles. Et donc jusqu'ici tout va bien, tu vois. Maintenant je pense que tout peut t'arriver avec le surmenage, tu peux très bien te confronter à des personnes qui sont hyper toxiques du jour au lendemain, tu sais jamais ce qui peut t'arriver en fait. Un accident est si vite arrivé, mais là maintenant j'y pense pas. Ça pourrait arriver, mais je pense que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. On est peut-être plus exposé parce qu'on rencontre plus de monde, parce qu'il se passe plus de choses à la minute, plus d'excès. Mais tu vois, déjà, ce qui est pas mal, c'est que je prends pas de drogue, je bois raisonnablement, je suis pas un homme, j'ai peu de vices, je suis un grand flambeur. Tout ce que je gagne, je le dépense. Vraiment, il n'y a pas un euro qui reste dans ma poche. Mais pour le reste, c'est un peu mon vice principal. Sinon, je peux pas me reprocher des choses vraiment qui soient autodestructrices, et ça, Dieu merci. Donc je vais essayer de me préserver mentalement et physiquement. Je pense qu'il faut pas que le corps lâche à un moment donné. Il faut arriver à adopter un rythme. C'est vrai que j'ai un rythme hyper intense et qu'il y a des allers-retours tout le temps, partout. La tournée, c'est intense. Là, j'ai 14 dates quasiment sur Mars. Ça fait une tous les deux jours. C'est quand même beaucoup, tu vois.
C'est quoi ta gestion du temps en ce moment ?
En ce moment, en fait, je gère pas du tout mon temps. C'est que je me lève le matin à l'heure qu'il m'a demandé de me lever et je découvre ce que je fais, de la journée. Après, je...
Parce que c'est tes attachés de presse qui gèrent.
Un planning en fait, et on a un planning commun, quoi. Toutes les personnes avec qui je travaille voient ce planning, ajoutent des trucs, font en sorte que ça soit bien rempli pour avancer, c'est normal. Après, je demande des jours off, tu vois, je suis pas idiot, j'essaie de me préserver. Et tous les mois, j'ai au moins un, deux jours qui sont bien, bien off, tu vois, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est un rythme effréné. Et donc très vite, tu peux te retrouver à un moment donné à te dire waouh.
Et genre, cette semaine, elle ressemble à quoi ?
Bon, on est quel jour ? On est lundi, donc
lundi.
Je commence avec toi. Ensuite, je vais rencontrer, c'est très drôle, un agent acteur qui travaille chez AS. Alors moi, je suis pas du tout acteur, très mauvais acteur même, je vais lui dire tout de suite. Mais il voulait me rencontrer et j'ai envie de me fermer aucune porte. Donc voilà, je trouve ça rigolo, même si c'était pour une pub, n'importe quoi. Tu vois, c'est intéressant de rencontrer le gars, qui est très bien. Ensuite, j'ai des promos, beaucoup de phoneurs. En ce moment, c'est beaucoup d'appels téléphoniques qui durent 20 minutes, 25 minutes, avec la presse régionale pour vendre les concerts, en gros pour annoncer les concerts partout en France. Demain, je pars en date et j'ai un rendez-vous le matin avec une maison de couture. Je sais pas encore pourquoi, j'aimerais bien un gros contrat, mais j'en sais rien, on verra bien. Et puis date, après-demain, deux jours de résidence, donc c'est préparation du concert, en gros mise en scène. Je vais rencontrer pour la première fois un metteur en scène qui va m'aider à occuper l'espace mieux que ça, tu vois, et roder le set, raconter une histoire en live, et puis concert encore. Donc il y a trois concerts cette semaine, deux jours de résidence et de la promo. Et en fait, les jours de concert, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi 4-5 interviews par jour au téléphone, donc c'est souvent, t'es très sollicité, et d'autant plus que bon, le concert il dure une heure quart, mais ensuite moi je vais toujours voir les gens après, tu vois. Il y a toujours moi je fais pas des salles de 5000 places, hein, quand c'est en région c'est des 500-600 places, mais ça dure nécessairement une heure et demie, deux heures après le concert. Et donc en fait tu travailles, t'as des balances qui durent deux heures, t'as les concerts qui durent une heure, et puis t'as encore deux heures de ça, et donc ça fait six heures intenses où tu dois être à ton maximum. Et donc c'est vrai que quand toute l'équipe elle veut faire la fête, parce que j'ai des fêtards dans mon équipe avec mon frère qui m'accompagne, qui est très fêtard, mes musiciens et tout, on rentre dans le van à l'hôtel, il est 1h du matin, moi j'ai qu'une envie, c'est de me foutre au lit, parce que le lendemain on se réveille à 7h pour aller autre part. Et eux font la fête jusqu'à 4h du matin. Je sais pas comment ils font, mais je dors.
Ah ouais.
Je...
ouais, moi non plus, je sais pas.
Moi, c'est vrai que... à minuit, une heure, je suis au lit. Quoi.
Ouais, d'avoir ce degré de présence, en fait, je trouve que c'est ça. Je sais pas comment dire.
C'est ça, c'est de voir être en pleine dédicace, conscience tout le temps. T'es obligé
d'être. Les gens arrivent à être obligés d'être connecté.
Là, tu peux pas avoir un instant d'égarement parce que, en fait, tu regardes dans le vide, le mec il dit, mais il m'écoute pas, tu vois.
Ouais.
Et parfois, j'ai un toute petite déconnexion qui dure 5 secondes et je me dis, Pierre, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, c'est juste que ça fait 3 heures que tu parles à des gens continuellement et quand tu es dans une discussion, tu as le temps d'écouter l'autre. Souvent, c'est des discussions qui sont à plusieurs. Ici, avec les fans, un par un, c'est toi qui parles la plupart du temps. Tu vois, tu poses des questions et compagnie, mais c'est toi qui animes, c'est ton rôle. Et tu dois t'adapter à la personne que tu as en face. C'est particulier comme exercice. Surtout que je suis très bavard et je donne quand même beaucoup. Donc les sessions dédicaces durent longtemps, souvent.
Et ça, ça t'inquiète pas pour l'avenir, dans le sens où, en fait, je trouve que les musiciens, vous avez un peu un dilemme compliqué qui est que soit tu t'accèdes plutôt à la notoriété durable, où il y a un vrai public qui te suit, mais où du coup, ben, ça veut dire concert, ça veut dire album, ça veut dire critique, ça veut dire... Enfin, tu vois, je trouve qu'être en tournée incessamment, ça doit être vraiment chiant, tu
fatigant.
Vois.
C'est pas chiant, c'est fatigant.
Ok. moi, ça me ferait chier de faire tous les soirs la même chose, je le dis.
C'est vrai, oui. Ouais. En fait, vraiment, et là, ça fait phrase bateau, mais c'est la réalité, c'est que c'est jamais la même chose, vraiment. Parce que mon show, il n'est pas millimétré du tout, en fait. En tout cas, à l'heure qu'il est, peut-être que dans 5 ans, ça sera un truc, tu sais, tourner des stades, c'est partout la même chose. Je me le souhaite, en réalité, ça voudrait dire que j'ai réussi, mais chaque soirée, elle est tellement différente. Parce que les notes sont fausses ailleurs, parce que mes interventions, elles sont jamais calculées. Je sais pas ce que je vais dire, en fait, de
oui,
la soirée.
Sûr.
Les gens, ils sont pas les mêmes. T'as des publics qui sont très mous, il y en a d'autres qui sont parfaitement dynamiques et qui sont géniaux. Voilà, t'as des gens qui donnent à fond et tu te dis, waouh, mais quel rêve. Et donc, souvent, je m'endors dans mon lit d'hôtel et je me dis, putain, la chance, en fait. Et je suis trop content. Et surtout, les rencontres, justement, les rencontres fans, c'est jamais les mêmes parce que chaque personne est différente, t'as un truc différent à t'apporter. Tu découvres des cadeaux, des dessins, tu te dis mais c'est pas possible, qu'on m'apporte autant d'affection, d'attention, c'est fou, tu vois. Et donc c'est jamais la même chose, franchement, c'est jamais la même chose.
Mais je comprends. Donc voilà, donc d'un côté t'as et potentiellement cette superstarisation comme Lady Gaga, mais donc avec tout ce qui va avec.
Ou alors
t'es condamné à être pas écouté. Et ça, pour un artiste, c'est hyper compliqué. Enfin, ou alors passer ta vie à essayer de, tu vois, avoir une forme de notoriété, de sortir la tête de l'eau. Voilà. En tout cas, ce à quoi, au final, aucun artiste n'aspire. Mais je ne sais pas si tous les artistes ont vocation aussi à aspirer à être une superstar, tu vois.
Ah, mais il y en a plein qui ne veulent pas du tout. Il y en a plein qui détesteraient ça. Moi j'aime bien, moi je pense que j'aime bien. Alors il y a des côtés qui sont fatigants, il y a des côtés négatifs, mais il y a beaucoup de choses qui sont cool. Moi tu sais, j'ai beaucoup rêvé devant, quand on parle de vendeur de rêve, tu vois, bah, Lady Gaga m'a fait beaucoup rêver. Et ce qui me faisait rêver, c'était ses sorties d'hôtel, de palace, dans des tenues pas possibles, avec ses hordes de paparazzi. C'est une sorte de glam, tu vois, qui est hyper superficielle. Je pense pas que je sois très superficiel, mais ça fait partie des choses qui vont douter parfois. Mais j'aime bien ça. Et en fait, j'aime bien le luxe que, alors, contrairement à ce que disent les gens sur Twitter, j'ai jamais connu, tu vois. J'étais dans une maison tranquille, hein, y a pas de souci, mais c'était une ferme à l'ancienne, pas forcément chauffée toujours et tout ça. Et moi, ça me fait rêver. Les hôtels, enfin un palace, tu vois, genre je suis allé au Hyatt il y a pas longtemps pour un défilé Saint-Lange. J'étais invité gentiment là-bas. C'était une nuit de rêve, en fait. Parce que, je sais pas, ça fait... C'est comme dans les films, tu vois. Il y a un truc romantique, de nouveau, excessif, à ça, c'est d'excès, encore une fois, mais vécu pour de vrai, matériellement. Bon, c'est un peu... Je pense qu'on s'en lasse très vite, mais pour les premières fois, et là, ce sont mes premières fois, ça me fascine et j'aime bien. Donc, être une superstar, oui, moi, c'est pas pour les hôtels que je le fais, mais ça, ce qui va avec, c'est justement tout cet amour du public. C'est un booster d'ego aussi, bien sûr. Se dire que ce que j'écris est fédérateur, c'est hyper beau. Parvenir à faire une œuvre universelle, je trouve ça magique, moi, personnellement. Et puis, c'est un train de vie, c'est les défilés, justement, tout ce truc-là. Ça permet d'accéder à plein de choses qui sont mes passions auxquelles j'aurais pas forcément accès, tu vois. Justement, être invité au défilé à droite à gauche, c'est un truc qui me fait rêver toujours. Enfin, depuis que j'ai découvert la mode, ça fait 7 ans. Et là, ça y est, doucement, j'y ai droit. Et donc, ça fait partie des raisons qui font que j'ai eu envie de ça. Même si, ouais, c'est une question de caractère et c'est inné, tu vois. Et je vois des groupes indés que j'adore, et qui sont sur scène et ils s'éclatent à mort, mais il y a 200 personnes dans la salle, et s'il y en avait 5000, je pense qu'ils ne seraient pas aussi à l'aise et qu'ils ne feraient pas autant, tu vois. Et ils aiment bien ce côté rock, punk, garage. Moi, c'est pas moi ça. Mais j'aime bien y aller en tant que spectateur, par contre.
Je vois ce que tu veux dire. Donc, ouais, t'es à l'aise avec l'idée de potentiellement, demain, faire des tournées dans le monde entier.
Ça me fait rêver, franchement, ça me fait rêver. Ouais. Okay. Ouais, sélectionner mes dates, faire des grandes salles avec un public qui est fou, qui te voit comme une espèce de demi-dieu, façon Farmer, tu vois. Ça, c'est cool, c'est un rêve. Mais ça vient avec le temps et le ouais. travail.
Quand est-ce que tu te diras que t'as réussi ?
C'est une bonne question, vraiment. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent déjà que je suis une star, alors que pas du tout, tu vois. Moi, je me sens pas star d'abord parce qu'on me reconnaît très peu dans la rue. Parce que j'ai pas encore tous les avantages qui vont avec. Mais quand est-ce que... Je pense que remplir un Bercy, vraiment, c'est déjà une belle preuve de réussite. Ça veut dire que tu parviens à mettre d'accord 20 000 personnes dans la capitale, de venir te voir en concert. Franchement, c'est très beau. J'ai pas envie de conquérir uniquement Paris, parce que c'est un microcosme Paris. Moi, j'ai envie de conquérir toute la France et la Belgique, et peut-être un jour la francophonie dans le monde. Et le monde, en réalité, pourquoi pas ? Qui sait ? Parce que le jour où je dépasse le français, ça veut dire que la musicalité est assez forte pour que les gens qui parlent pas ma langue kiffent ma musique, tu vois.
Ce que Stromae réussira
à faire. Indila aussi, tu vois. Moi, Indila, il y a beaucoup de gens qui l'ont moqué en mode plaisir coupable. Moi, j'adore Indila. Je trouve que les mélodies sont dingues. Les prods sont justement hyper kitsch, mais dans ce qui me plaît du kitsch, la voix est folle. Et donc ça me parle. Et Indila, Stromae, ils sont parvenus à outrepasser les frontières. Comment ? Parce que la musicalité, justement, c'est de voir les mélodies, elles sont assez fortes, elles se suffisent à elles-mêmes. Et ça voudra dire que j'ai réussi. Mais déjà, remplir un Bercy, c'est très beau. C'est un beau symbole. D'abord, il y a l'Olympia en mai, puis il y aura un Zénith dans un an, je pense.
Trop bien, on te souhaite rendez-vous dans 2 ans. Allez, à Bercy.
3 ans.
Je demande une petite dédicace. Tu diras dédicace à Louise.
Ouais.
Avec qui j'ai fait mon premier podcast.
Bien sûr.
Et à qui j'ai dit que je rêvais de faire Bercy.
Oui, bien sûr, Louise, bien sûr.
Voilà. Je serai là, fais gaffe. Écoute, je vais te poser quelques petites dernières questions. Déjà, je me demande, t'as déjà fait face à une panne d'inspiration ou, tu vois, un gros moment de doute créatif ?
En vrai, oui, alors, à la fois c'est trop tôt pour dire ça parce qu'il n'y a eu qu'un album et que ça a été sur un an, ce qui est une période assez courte de création et tout s'est bien passé. Mais bien sûr, il y a eu des. Parfois, t'as un mois, c'est pas très long, un mois, mais des fois, t'as un mois où rien ne vient. Et alors, tu fais les trucs, mais c'est nul. Et tu t'en rends compte et donc tu te dis, mais est-ce que j'ai perdu le truc, tu vois. Et puis, c'est toujours très rassurant de faire une bonne chanson. Alors, tu te dis, ah non, ça y est, je sais encore faire. Et une bonne chanson, tout est relatif, moi j'aime bien. Et donc. Je me suis pas encore mis sur le deuxième album. Je suis très curieux de voir comment ce que ça va donner, tu vois, parce qu'il y aura une pression en plus. Là, il n'y a pas d'attente, en fait, sur le premier. Sur le deuxième, il y a des fans qui auront envie de certaines choses, qui auront des attentes. Le deuxième, il doit être meilleur, mais c'est le plus dur aussi, le deuxième. C'est un peu l'album du vautrage, souvent, mais ça peut pas être le cas. Ça peut pas être le cas.
Comment tu te vivrais, tu penses ?
Si c'était un vautrage, ouais. Très mal, très très mal. Je pense que tout le monde vit ouais. un échec très mal, tu vois, parce que...
Ouais, mais tu vois, moi, je suis très admirative des personnes qui me disent... Et d'ailleurs, c'est le cas d'une amie chanteuse, Lucie Lebrun, qui est ouais. dans le groupe les L.E.J. Mm-hmm. Où, quand tu vois, elle a un bide à un concert ou à un de leurs albums ou un son, je ne sais plus vraiment de quoi elle me parlait, je crois que c'était plutôt un concert. Elle me disait, non mais attends Loulou, c'est comme ça qu'on apprend. C'est genre vrai. Moi, j'en tire toujours des enseignements de fou et je me dis, waouh, c'est fort.
C'est très
Après,
fort.
Après, peut-être que le fait d'être dans un groupe, tu vois, elles sont trois.
Ouais, c'est, il y a ce coup, côté c'est où c'est, voilà, échec.
Tu vois, c'est moins personnel. Moi, je pense que, ouais, c'est moins personnel. Personnellement.
Peut-être moins personnel, mais c'est quand même très sage comme façon d'aborder les choses parce que moi, je vois ça avec beaucoup moins de distance, je t'avoue. Alors, un concert, tu peux voir un concert, c'est très frustrant parce que tu te dis que tu as déçu des gens et toi, t'es le premier déçu. Mais c'est un concert et t'en auras 200 autres. Par contre, un album, moi j'ai pas l'impression que je vais faire 15 albums dans ma vie. Et tu mets tellement de passion et de temps et de ton âme dans un album, ça paraît un peu bateau dit comme ça, mais 1, 2, 3 ans de travail, c'est quand même gigantesque. Je pense que quand tu fais un livre, tu peux pas te permettre de dire ça pourrait être un échec. Bon, voilà. Tu vois, moi, dans ma vie, je pense que je ferais 3 albums max, 4 max. Je pense.
Non, mais attends, t'en as fait un déjà à 20 ans. Donc,
ouais, mais je sais pas.
T'as pas en faire un tous les 20 ans, hein, j'espère.
Non. Mais je pense qu'à 30 ans, j'arrêterai et j'irai faire autre chose, tu vois.
Ah bon ?
Ouais, je me vois ça comme ça.
Pourquoi ?
Peut-être que j'aurais fait le tour. Moi, je trouve que ce qui a de la valeur, c'est la fraîcheur dans la musique quand on apporte quelque chose de nouveau. Et peut-être qu'à 30 ans, je serais plus forcément aussi ferai, tu vois. J'en sais rien, je dis ça comme ça. Hein, et sans doute que je me trompe et qu'à 35 ans, il y aura un album qui sortira et je viendrai le défendre chez toi.
T'as pas d'autres idées en tête, en tout cas?
En fait, il y a d'autres choses qui me passionnent. Ah bah justement, la photo de mode, en réalité, ça fait hyper longtemps que j'en ai plus fait et ça m'amuserait d'en refaire dans quelques années, tu vois. Mmh. En plus, j'aurais plein de copains connus, ce serait marrant. Je pourrais faire des photos d'eux, des personnages intéressants, atypiques. Il y a trop de choses à faire, tu vois. La mode, bon, j'essaie très mal, je pourrais pas faire ça, mais je pourrais m'y intéresser quand même d'une façon ou d'une autre. Je sais pas encore quoi, tu vois, mais...
T'as envie d'explorer aussi tes passions, quoi.
Explorer d'autres choses, ouais, bien sûr. Pas me limiter à la musique.
Écoute, tu nous as dit que tu lisais pas beaucoup, mais est-ce que t'aurais une ressource, que ce soit un livre, un film, enfin, tu vois, ce que tu veux, une chanson même, peut-être, qui t'a particulièrement touché et que t'aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent?
Mais c'est hyper connu, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent pas encore. Mais c'est une série... Moi, j'aime bien rire, et ça me fait du bien après une journée de studio déprimante ou alors un concert de me lâcher avec mon frère et on regarde The Office. Et The Office, c'est vraiment extrêmement drôle. Je conseille, je recommande à qui n'a jamais regardé The Office et qui aime l'humour un peu absurde, tu vois, de regarder The Office parce que c'est hilarant. Et pour moi, c'est la série la plus drôle de tous les temps. Mais c'est un poil trop connu, peut-être. Il aurait fallu trouver un truc moins.
Non, pas du tout. Moi, j'ai pas regardé, par exemple. Donc,
Je sais pas si t'aimerais ou pas. Je sais pas,
parce que moi, je suis pas bon public.
Pas trop dans l'absurde et tout ou t'es...
Non, je suis pas trop dans l'absurde.
Bah, tu vas pas kiffer.
En fait, c'est compliqué parce que déjà, j'ai pas de second degré.
C'est vrai?
Ouais. C'est marrant quand t'as dit les petites 10 ans sur TikTok qui sont très premier degré. Je suis là, j'ai 10 ans, finalement. J'ai vraiment. J'en rigole, hein. Voilà. Après, non, moi, tu vois, Gad Elmaleh, par exemple, j'adore. Tu vois, je rigole de ouf.
C'est très drôle, Gad Elmaleh. C'est très, vraiment... très drôle.
Mais parce qu'il est assez premier dog aussi.
Moi, ça fait très longtemps que j'ai plus regardé Gad Elmaleh. Quand j'étais jeune, j'allais avec mes parents en vacances, on regardait ça à la télé, tu vois. Mais j'avais 12 ans. Mais je trouvais ça hilarant. Florence Foresti, hyper drôle aussi. Ouais. Sinon, stand-up, mais tu vois.
Second
degré.
Je sais que souvent, il y a quoi d'autre comme série un peu.
Tu as plus cette Friends et tout?
Non. Non plus, déjà, le fait qu'il y ait des rires derrière, ça m'énerve.
C'est énervant, je
crois. Ouais, c'est un peu...
Qu'est-ce qui te fait rire comme série?
Je sais pas si je regarde tellement des séries qui me font rire.
Bah, t'aimeras pas The Office.
Ok.
Regarde pas The Finalement. Office. Mais si vous avez un petit peu de second degré, regardez The Office, c'est trop bon. Et en second degré aussi, hyper, hyper drôle, c'est Monsieur Fraise. C'est très niche, c'est un... Parce que c'est très écouté, donc il faut que les gens aillent voir. C'est un comédien, il fait stand-up, et il est hilarant. Et c'est un spectacle qui s'appelle Madame Fraise, en ce moment, qui tourne un peu en France.
Trop bien.
Et j'ai été voir ça en Belgique, moi, là, il n'y a pas longtemps. Et c'est la personne qui me fait le plus rire au monde. Mais de nouveau, c'est très second degré, très, très absurde, quoi. Je te conseille pas.
Non, mais il faut peut-être que je me fasse une éducation, tu vois,
non,
du second degré.
Non, pas éduqué à ça. Je pense qu'on est, d'une façon ou d'une autre.
Bon, du coup, si jamais tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'In Power, qui est-ce que tu aimerais entendre?
Oh, c'est une belle question, ça. Je t'aurais dit Karl Lagerfeld, tu m'aurais frappé. Il est décédé, donc c'est compliqué.
Voilà. Tu peux me dire Stromae?
Stromae, il est
pas
passionnant.
Ton choix.
Non, mais Stromae, vraiment, c'est quelqu'un de passionnant en interview et il se donne beaucoup et tout ça. Mais il a fait une interview géniale pour, tu vois, Ep Taxi ou pas? Parce que c'est un format belge, mais en gros, c'est un taxi et c'est un peu le divan, quoi. Tu parles un peu. Et qui était très bonne. Et je pense que c'est pas similaire ici, mais on se livre beaucoup et ça, il y a un truc quand même, il y a des points communs. Donc je connais déjà sa réponse, entre guillemets, même si tu auras des questions qui sont nouvelles. Qui est-ce que j'aimerais bien entendre une interview? C'est une bonne question, tiens. J'ai rencontré Laetitia Casta il n'y a pas longtemps, je l'ai trouvée passionnante.
Okay.
Et pleine de douceur et de. J'aime bien. En vrai, si c'était Joko un jour, j'écouterai l'épisode du début à la fin, et c'est sûr, parce que c'est marrant. Juste pour revenir au second degré, tu sais, moi je suis très second degré. Non, mais aujourd'hui, je t'ai parlé assez premier degré. J'ai dit des vérités, mais c'est marrant.
Il s'en remet pas.
Par contre, pour l'amour, tu vois, l'humour, c'est tellement important. J'ai eu des relations, juste on riait pas assez. Alors, ça finit à cause de ça.
Et tu préfères rire ou faire rire?
Ah, j'aime bien les deux. Faire rire, c'est très très flatteur. C'est hyper bon pour l'ego. Et j'adore faire rire parce que tu te sens très séduisant. Mm. Et pour le coup, c'est sexy. Mais j'aimerais beaucoup qu'on me fasse rire. Et jusqu'ici, justement, j'ai plus fait rire que rire vraiment. Et donc maintenant j'ai envie de connaître les deux.
Okay.
Ce serait ça la réciprocité parfaite.
Les candidatures sont ouvertes, mais on veut un vrai compte.
Un vrai compte, et je peux boucler.
Écoute, je vais te partager la question signature du podcast. Ouais. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie?
Prendre le pouvoir de sa vie, je pense que c'est de se permettre aucun regret. Ne pas s'autoriser à avoir des regrets, c'est ça, c'est dire les choses quand il le faut et quand on sent le besoin, tu vois. C'est exactement ce que j'ai fait avec mon premier amour, on en parlait au tout début, mais, Mais voilà, je suis tombé amoureux et j'ai estimé qu'il fallait que je lui dise parce que sinon je pouvais potentiellement. Il y avait une chance sur 100 que ça soit partagé, mais cette chance-là, si je passais à côté, je passais à côté de ma vie, tu vois. Et pour moi, prendre le pouvoir de sa vie, prendre le contrôle, ça passe par là. C'est affronter ses peurs. C'est très bateau ce que je dis, mais je pense que c'est la réalité. Et sortir de sa zone de confort, c'est surtout ça. Parce que si j'avais eu peur de faire de la musique mon métier par crainte de gagner de sous, en fait, simplement, aussi, ben je serais,
tu serais pas là
mort de regret. Je serais pas là aujourd'hui d'abord, et dans 10
c'est
ans,
ça,
je pense
vrai
que
échec.
Je serais très malheureux.
Et c'est, c'était du second degré là, non?
Oui, bravo.
Yes. Tu vois, comme
quoi je l'ai cerné. Et je vais t'apprendre des choses. Non, mais c'est juste la peur des regrets, c'est ce qui me motive constamment. Et c'est pour ça que je fais plein de choses et que je plonge les deux pieds dans de tous les pièges qu'on me tend. Amoureusement et professionnellement, et je suis prêt à rêver. Et c'est ça, en fait, prendre le contrôle de sa vie, prendre le pouvoir de sa vie. Ne s'autoriser aucun regret.
Mourir d'avoir essayé.
Tout faire. Tout
j'adore.
Faire, tout essayer.
Écoute, merci beaucoup Pierre, c'était hyper chouette de te recevoir au micro d'une Power.
Avec grand plaisir.
Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi, qui veulent se procurer l'album, où est-ce qu'on les redirige?
Je vous redirigerai sur Instagram, Pierre Demare, du coup, M-A-E-R-E, et j'y poste tout.
Ok, génial, je mettrai ça dans les notes du podcast.
Merci Louis.
Et j'espère à bientôt.
À très bientôt, merci, c'était un plaisir, vraiment.
J'espère que cette conversation vous a plu. On serait vraiment heureux d'avoir vos retours sur l'épisode, alors n'hésitez pas à nous taguer en story @pierredemare et @mybetterself et envoyer un petit message à Pierre si le podcast vous a plu. Je pense que ça lui fera très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 250 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.